Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Studio 404.
Studio 404.
L'émission de société numérique.
Studio 404, présenté par l'âme UA.
Bonsoir tout le monde, est-ce que vous êtes chaud? Bah ouais, je suis chauffeur de salle aussi ce soir. Bonsoir, bonsoir à tous. On est au Tank. Donc le Tank, c'est la nouvelle place to be, la nouvelle place réelle to be. C'est pas un réseau social, hein. N'hésitez pas de vous inscrire, de réserver vos noms. C'est un endroit à Bastille qui va nous accueillir durant toute la saison pour enregistrer les studios 404 en public. Donc on est très contents, nous les gitans du podcast, toujours en train de se cacher à droite à gauche dans des studios à squatter. Normalement, les amis, on est là. Donc je suis très très content de vous accueillir. On a plein de public avec nous ce soir qui est chaud et qui se passe de la soirée cocktail. Donc c'est vraiment au lieu d'aller se battre pour des clubs matés, des coupes de champagne, ils sont là à nous écouter, ça fait très très plaisir. En tout cas, avec le public et vous chers auditeurs, nous avons nos quatre chroniqueurs que vous connaissez bien, mais je vais quand même vous les présenter. Il est Swag, il est Flex, il est Toyance, c'est Daz.
Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir, bonsoir. Je pensais que tu décrivais Sylvain là en fait, je suis un peu choqué mais...
C'est vrai?
Ouais.
Non, alors Sylvain, il est malade, il a de la fièvre, il a pris la codéine, il ressemble à un gros pubard drogué, Sylvain Palais.
Ouais. Bonsoir Paris.
À côté de Sylvain, lui, il a mis un petit complet, une petite chemise.
Et oui, figurez-vous que je suis jury à la Global Game Jam, donc je suis bien m'habillé.
Et comme d'habitude, il se vend bien ses fibres tigres. Et enfin, last but not least, last parce qu'elle arrive toujours en retard, but not least parce qu'elle fait des bonnes chroniques, c'est Mélissa Bounoua. Applaudissements.
Bonjour.
Donc voilà, on a nos quatre petits chroniqueurs et on va démarrer tout de suite avec une petite FAQ du public. On est chaud. Allez, une petite FAQ du public.
FAQ.
Alors, est-ce que Gaywen Luswarn est là? Il est où? Il est là. Alors, est-ce qu'il peut venir à la table? Se lever.
Et prendre le petit micro.
Et prendre le petit micro. Alors, bonsoir Gaywen. Voilà, bonsoir. Tu es seul debout. Maintenant, fais-nous rire. Bonne chance. Non, tu avais une question très intéressante, du coup, qui parlait de 4chan.
Exactement. Moot vient de quitter 4chan. Et vous, est-ce que vous y traînez encore?
Ah, très bonne question. Très bonne question. C'est vrai que Moot, pour redonner le contexte de la question de Gaywen, donc 4chan, le fameux image board américain, enfin international, qui a créé tant de phénomènes magnifiques ou affreux. Et Moot, qui était son créateur depuis ses 15 ans, ce jeune Américain, a décidé après, je crois, 11 ans et demi, de quitter l'aventure et de passer la main à d'autres. Est-ce que vous allez toujours sur 4chan, mes amis?
Waouh.
Daz?
Non, moi, j'y allais pas de base.
D'accord.
Parce que je ne trouvais pas ça légitime comme média. Je trouvais ça un peu pourri.
Et
Donc en fait j'ai aucun avis là-dessus. Non, je vais pas sur 4chan parce que je trouve ça naze. Mais en fait le truc c'est quand le gars qui crée quelque chose se barre, c'est quand même un signe qu'il faut pas rester. Hein.
Ouais.
Quand la Russie a quitté le communisme, et des pays qui sont restés, bon ben là ils regrettent un petit peu quand même. Hein.
Mais la Russie est en train de venir les rechercher, t'inquiète pas.
Oui bah oui. Bah, vraiment.
Mais c'est ce que tu allais, est-ce que tu vas toujours sur 4chan?
Je tombe souvent sur 4chan.
Ah, c'est-à-dire que tu ne vas pas 4chan, c'est 4chan qui vient à toi.
Je me dis pas le matin, ah je vais aller faire un tour sur 4chan.
D'accord.
Je tombe sur 4chan. Mais dans son message, le Moot de départ, il dit quand même qu'il y avait plein de bordel et enfin plein de problèmes et justement qu'il allait faire autre chose. On sait pas ce qu'il va faire.
Il a essayé de faire autre chose, il n'a pas réussi. Hein.
Ouais, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire de mieux que 4chan. 4chan étant l'Internet.
C'est vrai. Ah, carrément. Carrément. Ouais. Fibre.
Tout comme Elissa, excusez-moi, tout comme Elissa, je suis jamais allé directement, mais par des filtres, on va dire des forums, par exemple, qui agrègent le meilleur de 4chan, parce que c'est quand même assez dangereux. On ne recommande pas forcément à nos auditeurs d'aller sur 4chan.
Mais
et pour Moot, pour Moot, enfin, j'ai au bout de 10 ans, c'est normal de changer un petit peu d'activité et que cette personne n'est pas, le jour de sa mort, créateur de 4chan et c'est tout, quoi, parce que c'est pas forcément quelque chose de super.
Donc
simple.
Tu penses que c'est un peu comme les chanteurs qui ont fait un hit et toute leur vie essaient de dire mais non je fais autre chose.
Ah non mais c'est pas simplement un hit, c'est un hit bizarre. Enfin 4chan n'a pas une réputation positive sur internet, donc c'est peut-être bien d'essayer de se racheter d'une autre façon quoi.
Ah c'est marrant comme point de vue ça. Et toi Sylvain?
J'y allais beaucoup avant et là j'y vais un petit peu en pèlerinage comme enfin une fois de temps en temps comme je sais pas quand tu fais un masque à l'aloe vera, tu vois. Tu le fais pas tout le temps, mais une fois de temps en temps, tu te dis c'est bien, c'est doux. Et 4chan, c'est pareil.
4chan, c'est doux.
Et ce qui est assez intéressant, c'est que on a beau pas y aller, en fait, on est quand même imprégné de la culture de 4chan dès qu'on se connecte à Internet, dès qu'on voit un mème, dès qu'on voit quelque chose comme ça. On sait que peut-être pas ce mème-là en particulier, mais la culture des mèmes est née sur 4chan et c'est très intéressant. Et s'il y en a qui sont intéressés, j'ai une photo de Christopher Poole, donc de Moot nu, qui est en train de se faire sucer. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de monde qui l'ait, celle-là.
Tu la posteras sur B?
Je l'avais postée sur Canvas à l'époque où il avait lancé Canvas et mon poste avait été supprimé par les administrateurs.
C'est vraiment une photo de lui
Ouais. Enfin, il est en caleçon, il est en train de se faire mordre la bite par sa meuf.
Et ben voilà, voilà. C'était un petit instant, c'était un petit instant 4chan.
La culture avant
tout. Je la vends très cher.
Le ibuprofène, ça te fait de l'effet. Hein.
Ouais. Ah oui, je suis sous codéine. Je vous ai pas dit.
Et ben ça tombe bien, Sylvain, on va rester avec toi avec la toute première chronique de cette émission.
Yeah.
Sujet numéro 1.
Ce jour où nous nous sommes réconciliés avec les grands médias.
Oh là là, quel message positif.
Tout à fait. Un message plein d'espoir.
Un message plein d'espoir. Alors, qu'est-ce que c'est? Quel est donc ce jour où nous nous sommes réconciliés avec les médias? On dirait un film de Roland Emmerich, le titre de cette chronique.
Le jour où on s'est réconcilié avec les médias. Et ben c'était il y a une dizaine de jours, la France. Et ces Français, c'est les habitants de la France, se sont rendus compte de deux choses. La première, qui est un petit peu malheureuse, c'est qu'on est en sécurité nulle part. Et la seconde, un petit peu plus heureuse, c'est que les Français, ils ont besoin de la presse pour être informés. Et quand je dis la presse, je parle du corps de métier qui suit des règles, qui a une déontologie, qui met l'intégrité journalistique au cœur de sa démarche. Alors, je vous pose la question, ils sont passés où les journalopes? Où sont passés les merdias?
Les merdias.
Et les merdias, tout ce vocabulaire un petit peu de la fachosphère et de la défiance des Français vis-à-vis des médias. Alors, bien sûr, il reste toujours une bande d'illuminés au fin fond du Cantal pour penser que de toute façon, tout ce théâtre et toutes ces mises en scène sont organisées par le lobby juif, homosexuel, alien, voire les trois en même temps. On va les mettre tout de suite de côté, comme disait Bastien Vivès dans un de ses strips qui a refait surface récemment, qui a été dessiné en 2010. Tout ça, c'est des complots, l'Islande n'existe pas, la blogosphère non plus. Et oui les gars, la presse a super bien bossé. Elle a su allier le sens de l'actu, le devoir d'informer, mais aussi des choses qu'on n'avait jamais vues avant, que ce soit sur le papier ou sur le web. Elle a su innover et réinventer la manière de faire du journalisme.
Là, on parle de tout ce qui s'est passé durant ces fameux trois jours entre
même
Charlie Hebdo
une
et
semaine, voilà, exactement. Libération, le lundi 12 janvier, a fait dans le Tout Photo. Vous avez peut-être eu cette édition entre les mains. C'était un travail très émotionnel, qui était très fort, c'était bien vu et ça faisait chialer. Radio France et Le Monde ont très bien joué la carte du professionnalisme. Fact-checking, vérifiage de sources, en mode commissaire Bialès, laisser la police faire son travail. Spéciale dédicace aux équipes du live du Monde.fr qui ont fait tenir le truc plus de 120 heures. À ma connaissance, c'est le premier événement pendant lequel les internautes avaient une sorte de hotline, un SAV, avec un vrai pro derrière, pas un vendeur de la FNAC, qui te rassurait et t'expliquait dès que tu avais des doutes sur l'actualité. Spéciale dédicace également à BFM.
Ah, BFM, oui, parlons-en.
Pour beaux footeurs de merde, dont on ne parlera pas plus longuement, sauf peut-être ce moment-là à 1h du matin, où j'ai compris qu'il fallait éteindre la télé quand le journaliste qui avait visiblement atteint cet état où, au bout de sa vie, il est pris d'un éclair de lucidité. Bon, mais on sait ce qu'on filme, là, on commande des images, on sait même pas ce que c'est, et puis les gens disent n'importe quoi sur Twitter. Salut l'artiste. Le nervous breakdown n'était pas loin. Pour info, Libé a quand même multiplié par 7 la vente de son édition spéciale en kiosque. Le Monde a recruté plus de 7000 abonnés payants numériques. C'est assez gros comme chiffre. Et tous les médias ont battu des records historiques d'audience sur leur site internet. Ce qui prouve bien que cet intérêt, c'est pas juste une impression ou juste un effet de loupe. Cette réconciliation, donc, qui survient dans un climat où le mot média est souvent synonyme de manipulation, de presse à scandale, et on en a beaucoup parlé ici, de course au clic, bah, cette réconciliation, elle me fait bien plaisir. D'abord pour les médias, qui sont récompensés pour leur travail, et qui commencent à piger en plus comment fonctionnent le temps réel et les réseaux sociaux. Et oui, Bernard Montiel, tu n'es pas mort pour rien. Et puis, hashtag les gens qui se sont intéressés, ont posé des questions, ont découvert des choses, comme ce mec qui demande au monde pourquoi le journal ne sort pas le lundi, et le journaliste, tout en patience, qui lui explique ce qu'est un journal du soir. C'était super mignon.
C'était mignon, ça.
Mais oui, moi, ça me touche. Mais attendez deux secondes, alors ça existe le participatif? Ça existe la conversation? Les internautes s'intéressent à l'actualité? C'est pas des choses que les agences de pub essayent de nous vendre depuis 10 ans? Je veux dire, autrement que pour laisser des commentaires racistes sur le Figaro.fr. On dirait bien, oui. Fred Cavazza et Grégory Pouy, pour ceux qui les connaissent, avaient raison. Désolé d'avoir douté de vous, les gars.
C'est encore une grande réconciliation, ça.
Grande réconciliation. Mais ils ont aussi compris une chose, les gens, c'est que journaliste, c'est un putain de métier. Et qu'il est bien fini le temps où les gourous du social media criaient « au journalisme citoyen » quand Twitter est arrivé, ou les Mashable qui titraient « le blogueur est le nouveau journaliste » et autres assertions qui ont mis à mal bien des rédactions. Non, petit Twito, tu n'es pas journaliste. Laisse les professionnels faire leur job. Car on a quand même vu des choses pas très cool cette semaine-là sur Twitter. Beaucoup d'utilisateurs ont manqué de recul, de distance et d'intelligence. L'âme, je te regarde un petit peu.
Oui. Moi aussi.
Toi aussi, tu me regardes? Toi aussi, t'es coupable?
Je te regarde un petit peu. Ah ouais. Non, moi, je suis pas.
Touchés qu'ils étaient dans leur cœur, accros qu'ils étaient à leur timeline. Et ça. Il aura fallu, et c'est une première, que la préfecture de police leur dise d'arrêter de RT n'importe quoi. Excusez-moi, monsieur, c'est la police, vous pouvez arrêter vos retweets. Avant que les tweetos ne se rendent compte par eux-mêmes, en fait, que les médias étaient là pour faire le taf et que personne d'autre le faisait mieux qu'eux. On a répété encore et encore qu'en assassinant Charlie Hebdo, les terroristes s'étaient attaqués à la liberté de la presse. C'est d'ailleurs en brandissant des crayons, ce dimanche 11 janvier, qu'on a tous défilé dans les rues. Mais en réalité, on s'est rendu compte que c'est justement dans ces moments-là qu'on en a le plus besoin. C'est dans ces moments-là qu'elle est nécessaire et utile aux citoyens. Et c'est pas en brandissant des crayons qu'elle s'est rendue utile, la presse. Mais en tapant sur des claviers, en faisant son job, en respectant le contrat qu'elle a signé avec le citoyen. Et ça, les Français l'ont vu, les Français l'ont compris. Et ça me rend vachement fier d'eux.
Toujours très Sylvain Palais 2017, on peut l'applaudir.
Alors, quel sérieux.
Ah oui. Alors Sylvain, donc tu nous parles de réconciliation entre des médias qui ont été un peu vilipendés ces dernières années. On leur disait souvent, vous êtes à la bourre sur l'info, vous faites pas mieux que nous.
Vous manipulez l'actualité.
Et voilà. Et on s'est rendu compte pendant Charlie Hebdo, enfin tous les événements qu'il y a eu, qu'il y avait une partie de la presse qui a su avoir du recul, qui ne savait pas que de caisse de résonance comme les réseaux sociaux. Et donc dans toutes les réconciliations qu'a eu la France, donc avec sa police, elle-même, plein de choses, il y a eu la réconciliation avec ces grands médias. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce paysage un peu magnifique que nous dresse Sylvain?
Sur cet événement-là, bien sûr. Après, est-ce que ça va durer? Ça, c'est toute la question, en fait.
Ouais, c'est comme le reste, hein, de toute façon.
Voilà. Donc à mon avis, c'était un peu du one shot, donc ça s'est fait là parce que vraiment les circonstances étaient complètement ouf. Après.
Donc tu penses que c'est plus l'événement qui a poussé les gens à se réconcilier un peu avec tout?
Oui, bah
ou
oui,
qu'on s'est
oui,
rendu
oui,
compte de quelque chose quand même, qu'effectivement à un moment non, une info oui, travaillée avec du recul, ça avait une valeur.
Bah, je pense que de toute façon ceux qui ont un avis ultra tranché sur les médias, les groupes de presse, les complotistes, les organisateurs de complots, etc. machin, ouais. C'est pas ça qui changera leur avis, si tu veux. Donc là c'est juste que eux on les a un peu moins entendus. Parce qu'on entendait les gens juste normaux qui pour le coup ont voulu suivre l'actualité en temps réel, etc. Alors que peut-être que d'habitude ils font autre chose, ils ont autre chose à faire. Et donc à mon avis, ça, enfin, réconcilier les gens avec la presse, je pense qu'on n'a jamais été réellement fâchés avec la presse. Je pense que c'est ce que la presse a voulu nous faire croire.
Hashtag complotiste. Hey. Mélissa, toi qui es journaliste professionnelle. Est-ce que t'as senti un,
bah nous, on l'a vu,
un
ouais.
changement? Est-ce que t'as ressenti un changement?
On l'a vu, on faisait partie de ces gens qui se disaient « Putain, merde, on explose nos audiences » et en même temps, c'est un des pires événements des 10 dernières années, voire du siècle entier. Et du coup, on se disait « Ok, est-ce que comment faire notre job? Comment continuer à faire notre job pendant 3 jours en faisant les choses bien ?» Et en fait, nous, on avait cette chance de pouvoir suivre tout en direct. Et en fait, on a vu que les gens s'étaient arrêtés de travailler pour suivre ce qu'on faisait, quoi. Et on était en fait ce que faisaient les gens toute la journée. Mais quand Sylvain disait que le Monde a 7000 abonnés de plus, nous on le voit aussi, c'est-à-dire que les gens restent maintenant, enfin reviennent, et ça fait 2 semaines maintenant, et ils sont toujours là.
Donc ça veut dire que c'est pas juste un effet.
Quand il parle de réconciliation, il y a réconciliation. Enfin, les chiffres en tout cas le disent.
D'accord.
C'est-à-dire que les audiences ont explosé ces jours-là et sont restées en partie, sont supérieures aujourd'hui à ce qu'elles étaient le 3 janvier
plus,
par exemple.
7000 abonnés quoi, 7000 ouais, sur 70 millions de personnes.
Tu connais
quoi.
Le prix d'un abonnement au monde.fr, hein, ça coûte la peau du cul.
17 euros. C'est 17 euros.
Phil, parce que toi, toi qui es très très branché sur les réseaux sociaux,
ouais. J'ai
qui va surtout
rien
chercher...
tweeté sur Charlie.
Ouais.
Rien.
La ligne
silence total.
T'aurais eu des RT pourtant, c'est dommage.
Justement, mais je ne suis pas comme ça. Et d'ailleurs, je n'ai pas participé à plusieurs événements de Charlie. Bon, bref.
D'accord. Mais toi, en tant qu'utilisateur,
alors,
toi...
J'ai deux choses à dire sur la chronique de Sylvain.
Oui.
La première, c'est qu'il commence à dire « Oui, on ne parle plus de journalope ou de merdia. » Et ça, c'est le lexique de, effectivement, des électeurs du Front National. Ce n'est pas, d'autres personnes qui disent ça, c'est F de Souche. Et effectivement, les événements en question... on va dire, étaient plutôt, ils arrangeaient en quelque sorte la politique de méfiance du Front National. Donc, ils ne sont pas commencés à dire les journaux complotent pour nous faire croire n'importe quoi. Donc, c'est pour ça qu'il y a une certaine unité politique derrière ça. Par contre, je veux dire quelque chose, c'est que je veux dire une analyse complètement objective et dépersonnalisée de sentiments. C'est que...
Ça existe, ça ?
Il s'est passé cet événement. Et donc, tout le monde ne parlait que de ça, mais on ne pouvait pas parler d'autre chose. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas faire de la publicité pour ces matelas ou pour un film qui sort. On ne pouvait pas parler de la météo à Vincennes. D'ailleurs, je crois qu'il y a eu le président de FO qui a changé entre-temps discrètement à ce moment-là et on n'en a pas entendu parler. Et d'un certain côté, c'est pas la réconciliation amicale avec les grands médias, c'est la réconciliation inévitable, fatale, et un D'accord. peu sans avoir le choix avec les grands médias, parce qu'il y a, on va dire, un comportement qu'on se doit d'avoir, parce que c'est notre culture, et ce comportement a induit une réconciliation avec les médias. Mais ce n'est pas forcément peut-être un choix, tu vois.
D'accord, donc pour toi, c'est plus quelque chose qui s'est imposé de lui-même, il n'y a pas eu... On s'est rendu compte que c'était un très beau métier, qui était journaliste et que en fait c'était génial.
Pas forcément, je veux dire. Enfin, de toute façon, si on voulait avoir des news de autre chose sur BFM TV par exemple, on pouvait pas parce qu'il y avait que ça.
Oui.
Et on ne pouvait pas parler d'autre chose sur Twitter parce que si on avait l'indécence de le faire, je dis pas que j'avais envie de le faire, mais si on avait l'indécence de le faire, et d'ailleurs certains s'y sont brûlés les doigts, on avait des gros problèmes. Voilà. Et donc,
c'était quoi les gros problèmes exactement?
Tu
perds des followers.
Présente. Non,
je qui parlait d'autre chose.
Comment ça s'appelle? C'est pas.
Non, par exemple, pour les marques. Oui. C'était les trois Suisses.
Les trois Suisses, voilà.
Pour les marques qui sont.
Non, mais là, c'était du mauvais goût.
C'était du mauvais goût. Même ça, c'était bizarre dans une timeline normale de tous les gens qui doivent être là, où on avait ce fil d'actu en continu sur cet événement et sur rien d'autre. C'était bizarre d'avoir, par exemple, des posts sponsorisés. Pour un mec qui était sur sa campagne Twitter, qu'il avait lancé une semaine avant et qui ne l'avait pas désactivé. Et tu tombais sur des agendas normaux de marques ou de gens qui disaient « je serai l'invité ce soir » de machin. Et c'était complètement incompatible avec ce qui se passait. C'était indécent, quoi.
Pour en revenir à cette histoire de réseaux sociaux en général, est-ce que vous avez eu l'impression que justement les réseaux sociaux, qui étaient un peu les rois de l'info, qui étaient un peu les rois de la réaction rapide, du bon mot, etc., se sont un peu retrouvés à leur place d'une certaine manière? C'était qu'à un moment... ils sont un peu fermés leur gueule, ils ont repris ce que les grands médias disaient, parce qu'à un moment, ils se sont rendus compte que c'était qu'une caisse de résonance, qu'il n'y avait pas vraiment de direction, mais juste un maximum d'effets, et qu'à un moment, ils se sont rendus compte qu'effectivement, il fallait s'en remettre à des professionnels ou pas du tout.
On ne peut pas dire, sur le plan factuel, qu'ils aient fermé leur gueule. Au contraire, ça a été un tintamarre pas possible de choses vides. Il y a eu une sorte de conseil des tweetos qui a dit, bon, quelle blague on va faire.
Un conseil des tweetos.
Ouais, Yalta de la blague sur Yacharlie, c'était absolument incroyable. Et au-dessus, il y avait le conseil des marques qui disait, est-ce qu'on peut tweeter, est-ce qu'on peut pas, quand est-ce que ça finit, parce qu'on n'en peut plus. Et voilà. Non, mais ça a été ça. Je veux dire, les gens qui voulaient lancer leur gamme, il y a eu une cessation économique au niveau marketing pendant longtemps. Et ça, c'est pas anodin. Ça, il faut le dire parce que ça a l'air d'être complètement sans cœur, mais c'est une réalité, quoi.
Sylvain, est-ce que tu penses que les gens se sont dit, bon, ok, je vais peut-être fermer ma gueule, alors que j'avais l'impression qu'on était aussi pertinent que des médias?
À mon avis, il y a pas mal de gens qui sont retenus, effectivement, de dire de toute façon. Ce que j'ai à dire, je l'ai déjà vu mille fois dans ma timeline. Je pense pas que réagir à chaud soit une bonne idée. Donc moi, je sais, par exemple, Fib l'a dit aussi, on s'est retenu de tweeter sur l'événement, etc. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que, je le disais dans la chronique, les grands médias ont enfin compris comment fonctionnaient les réseaux sociaux et comment fonctionnait Twitter et comment fonctionnait le temps réel. Et ça, c'est une chose qui fait plaisir, parce que du coup, on avait... Enfin, moi, j'avais une timeline qui était... enfin, tout ce que je voulais voir, je l'avais au bon moment. Toutes les infos qui tombaient, je les avais dans ma timeline. J'avais juste à la regarder, j'avais même plus à intervenir. J'avais mon fil d'infos sous les yeux.
Mais cette obsession du partage qu'on a souvent, du coup, c'était pas... Il n'y avait pas une envie justement d'à chaque fois dès qu'on voit une info, on la partage.
Tu dis ça pour te racheter là ou
Moi je plaide totalement, j'étais complètement dans l'hystérie du truc. Hein, ouais. Donc, mais justement, comme disait Fibre, il y avait un tintouin pas possible parce qu'on était des dizaines de milliers, des centaines de milliers de personnes sur Internet à partager de manière compulsive et presque paniquée. Est-ce qu'il n'y a pas de frustration ? Est-ce qu'on se dit, bah oui, les grands médias ils font leur job, super, lisons-les, puis on les lit et on redevient passif d'une certaine manière ?
Moi j'étais dans une posture passive pour une fois.
Ouais. D'accord,
okay. Effectivement.
C'était assez rare. Mais Daz, toi aussi
ouais, bah oui, mais les circonstances s'y prêtaient, de toute façon. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'on aurait pu apporter de plus ?
Ouais, c'est ça.
Puisque d'habitude, Twitter, c'est d'abord des blagues, après du bitchage gratos sur des influents.
Ensuite, des subtweets.
Non, mais non, on dit souvent qu'il y a autant d'experts que de tweetos ou de gens sur Facebook.
Ouais, ouais,
et
d'un
coup, on avait l'impression qu'il y avait moins d'experts en balistique, en intervention.
Oh, j'en ai croisé.
Intervention du RAID et du GIGN.
J'en ai croisé les mecs qui ont fini Rainbow Six 5 fois, qui étaient en train de donner des conseils sur comment taper en simultané deux endroits à 30 km de distance. Ouais, j'en ai vu.
D'accord.
Mais oui, non, c'était quand même. Enfin, à un moment donné, là, clairement, l'événement était tellement grave que bon, bah, ça a remis tous les gens à leur place, en fait. Et on a dit, bon, bah, on va laisser le truc se passer, parce que de toute façon, enfin, t'apportes rien.
Mélissa, est-ce que tu penses que du coup, il y aurait une sorte d'avant-après, et qu'il y aurait une sorte de jurisprudence sur le fait qu'effectivement, quand il se passe un truc gros, et ben, en fait, Internet va un peu fermer sa gueule et laisser faire les pros.
Mais on n'a pas du tout fermé notre gueule, en fait. Enfin, d'accord. Nous, j'ai l'impression qu'on croit ça dans nos cercles, parce que oui, il y a eu trois mecs qui ont dit arrêtez de tweeter les photos, le GIGN dans son opération, donc arrêtez de montrer des photos de la police, mais en fait, enfin, je pense qu'il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de tweets à ce moment-là que enfin,
c'était des tweets pour dire arrêtez de tweeter.
Non, mais t'avais encore les mecs qui faisaient des blagues, t'avais encore les mecs qui partageaient les mêmes photos, t'avais plein de gens qui tweetaient juste je suis servi avec le visuel. Enfin, les gens ont énormément tweeté, donc on sait pas.
D'accord, donc certes, pour toi, c'est plus un effet qu'on a. Mais
on a évité
vrai.
De faire notre bonne blague peut-être, mais en fait, on a tweeté quoi ? Des photos de la place de la République, enfin des photos de la manif, il y en a énormément, donc on s'est pas du tout arrêté. Enfin, il y a eu les blagues, il y a eu des mecs qui disaient ils l'ont bien mérité, enfin, c'était le même bordel que
d'accord,
d'habitude.
D'accord, donc pour toi, les gens ont quand même continué à l'ouvrir. Ouais. Et les gens qui étaient sur la réserve, c'est une sorte d'exception ou de petite sphère de gens qui réfléchissent voilà. Là-dessus.
Dans nos cercles à nous, de journalistes, de gens qui travaillent dans les médias, de gens qui aiment Internet, mais qui se connaissent les uns les autres.
Fibre ?
Disons que ce que j'appelle la Charlie Exploitation.
La Charlie Exploitation.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, au centre de Twitter et même de nous tous, la névrose de la société, c'est qu'on veut exister.
Oui.
Et là, il y avait tous les yeux du monde entier, à l'est et à l'ouest, braqués sur cet événement. Et donc, effectivement, quand on avait la phrase, pas forcément le bon mot, mais soutien à Charlie, je les connaissais, c'est des types géniaux, je suis brisé, un bon petit message plein de pathos, bah, qui enclenchait des retweets, on faisait partie on était le porte-parole de la détresse que vivait la France à ce moment-là. Et effectivement, beaucoup de gens l'ont recherché, je pense, à ce moment-là, mais inconsciemment, pas forcément en disant, je vais accumuler du follower. Voilà.
Ah ouais, vraiment pas.
D'accord. Alors, on va finir juste sur une dernière une intervention du public. Si quelqu'un veut avoir un avis là-dessus sur le rapport qu'il a eu. Alors, je sais que c'est toujours dur parce que c'est la deuxième personne qui va se lever pour intervenir. Mais est-ce qu'il y a eu quelqu'un qui a un avis sur ce rapport qu'on a eu pendant cette crise absolument dingo, sur le rapport qu'on avait, nous, à s'exprimer sur les réseaux sociaux et le rapport qu'on avait aux médias ou pas ? Ah, c'est le grand moment de difficulté.
Ouais, ils sont tous sur Twitter, mais là, d'un seul coup, tu vois.
Ils ont tous fait un « Je suis Charlie », mais...
Ouais. Oui, ah. Alors, mademoiselle, vous allez prendre le micro. Alors là, c'est contrairement à 404 et vous, c'est une émission audio, donc on ne peut pas vous voir, mais voilà. Mademoiselle, habillée en noir, brune.
Alors moi, en fait, j'ai suivi de l'étranger, parce que à l'époque, j'étais en Nouvelle-Zélande quand ça s'est passé.
Donc vraiment le plus étranger qu'on puisse faire.
Ah ouais,
c'est vraiment
le plus
loin
24
possible.
Heures. Et en fait, j'ai simplement une remarque. C'est que je trouve que c'est la première fois quand on suit un événement international ou un conflit international depuis la guerre du Golfe. Alors après, je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui étaient nés pendant la guerre du Golfe. Moi, oui.
Si, il y a des gens majeurs ici, t'inquiète.
Si, c'est vrai ?
Oui, oui.
On dirait pas. Non, ce que je voulais dire, c'est que les souvenirs que j'avais de la guerre du Golfe, c'est qu'il y a cette espèce de surexcitation des médias autour du sujet. On avait des journalistes haletants qui commentaient le moindre événement. Et je trouve que c'est la première fois dans les médias, justement, qu'il y a eu de la retenue par rapport à les événements, à part ce qui s'était passé à Sydney. Parce que j'habite en Australie, en fait, à la base. et la prise d'otage qu'il y a eu à Sydney, qui s'est passée une semaine ou deux avant.
Dans le centre commercial.
Ouais, les médias avaient fait un peu le même boulot, pas de photos, alors que c'était juste en face des bureaux de Channel 7, etc. Il y a eu aussi pas mal de retenues des gens sur Twitter et Facebook, parce que Martin Place, l'endroit où ça s'est passé, c'est un endroit qui est très fréquenté. Et les gens ont beaucoup de retenues en disant justement, pas de retweet, des photos, laisser la police faire son boulot. Je trouve que ça a été un petit peu pareil en France. Et puis surtout, après, il n'y a pas eu de condamnation des musulmans en masse par rapport aux événements qui s'étaient passés, en fait.
D'accord. Donc il y a eu quand même une retenue. Donc peut-être que les gens commencent à apprendre avec le temps sur les réseaux sociaux. Ouais. Sylvain, tu penses que c'est possible qu'avec le temps, on commence à comprendre comment ça marche, comment il peut avoir des conséquences sur le bruit qu'on produit ?
Je pense qu'on s'en était pas rendu compte avant. Merci beaucoup. Avant la session qu'on a eue il y a deux semaines, et que, en fait, comme tu disais, ça va faire jurisprudence pour plein de choses, notamment peut-être que BFM va arrêter de filmer les flics en train de se cacher derrière des bâtiments.
Et France 2 aussi filmait.
Et France 2 aussi filmait. Et peut-être que effectivement, les gens vont arrêter de faire circuler des faux messages, parce que c'est la première fois que la police intervient sur Twitter pour rappeler les gens à l'ordre, etc. Donc je pense qu'effectivement, ça va servir de leçon aux gens, et ça fera jurisprudence.
Mais justement, on parle de jurisprudence par rapport donc à tout ce qu'on a vu nous de notre côté en tant qu'utilisateurs de réseaux sociaux. La question, c'est est-ce qu'il y aura une vraie jurisprudence, voire des sanctions judiciaires en fait, par rapport à justement des médias comme BFM qui ont fait des trucs complètement irresponsables, qui ont mis la vie de certaines personnes en danger, qui ont jeté l'éthique par la fenêtre. Bon, on sait qu'ils en avaient pas de toute façon à la base, mais je veux dire, le peu qui leur restait est passé par la fenêtre. Est-ce que finalement on peut s'attendre à des sanctions, je sais pas, le CSA ou
le CSA a convoqué beaucoup de chaînes d'infos pour faire une réunion extraordinaire, etc. Mais je crois qu'il y a pas eu de sanctions, il n'y a rien eu.
Eh ben c'est dégueulasse. je le pense vraiment. Je pense sincèrement que BFM devrait arrêter.
Ils ont dû se faire taper sur les doigts, mais bon. C'est...
Entre deux petits fours et du champagne par rapport aux chiffres d'audience.
Ça serait pas un petit peu complotiste?
En plus, c'est Alain Veil qui s'est vanté des super audiences.
Ouais, génial!
Alors que c'était pas encore fini, c'était n'importe quoi.
Bon, on finira sur BFM TV du coup, c'est très fédérateur. C'est
magnifique, ouais.
C'est les cons. Très bien, on finit là-dessus.
FAQ.
Est-ce que Pierre-Jean est là? Ouais, Pierre-Jean, une question qui ressemble aussi un petit peu à la question de Sébastien Gestière. Mais c'est Pierre-Jean, tu vas nous la poser du coup, c'est une question d'actu. Parce qu'on en a beaucoup parlé depuis deux jours. Bonsoir.
Ouais, donc je vois que vous êtes arrivé avec de la haute technologie.
Et oui, le Cardbox de Google.
Donc ouais, du carton.
Et, oui. Et des scratchs.
Voilà. Donc ma grande question, justement, c'était... Alors à votre avis, le futur, c'est réalité augmentée ou réalité virtuelle?
Oh putain, c'est ma fac.
Et ben, t'auras toute l'émission pour pouvoir la changer.
Bonne question.
J'ai pas lu le
script.
Alors, pour remettre les choses un peu dans le contexte, donc la réalité virtuelle, ce sont des images qu'on a devant les yeux et qui nous placent devant un autre univers, des images entièrement diffusées. Et la réalité augmentée, ce sont des images qui se superposent sur la vie réelle, on va dire. Et on en parle beaucoup parce que Microsoft a impressionné tout le monde il y a deux jours en présentant HoloLens.
Yes.
Donc une lunette qui te... C'est un peu le tragique destin de ce genre de technologie, mais on passe pour un con. Mais qui apparemment est dingue puisque ça nous permet de superposer des écrans de Skype, de la VOD, du Minecraft sur un environnement réel. Ça, c'est la réalité augmentée. Et donc en face, il y a les tenants de la réalité virtuelle que sont Oculus, donc soutenu par Facebook, mais aussi Samsung s'est mis dedans, Sony s'est mis dedans. Bref, tout un beau programme. Alors du coup, Daz, dis-moi, réalité augmentée ou réalité virtuelle ?
Moi, je serais plutôt team réalité virtuelle, déjà ouais. Parce que j'ai essayé et que ça a marché.
Ouais.
Contrairement à la réalité augmentée qui a jamais fonctionné en fait. La réalité augmentée, je trouve vraiment, enfin pour l'instant en tout cas, ce que j'ai eu l'occasion d'en voir, c'est vraiment un gimmick pour moi, c'est de la connerie, ça sert à rien. À part faire tourner des McLaren en 3D devant les gens pour faire ouais, regarde, super, je peux enlever le moteur, voilà.
Ouais.
C'est pour moi quelque chose qui de toute façon ne peut pas être utilisable dans la vraie vie. Il suffit de voir les Google Glass, c'était un peu ça, les Google Glass aussi quand même.
Les Google Glass, c'était en grand peu différent, mais ça sur un.
Oui, mais voilà, c'était utiliser des informations externes sur ton champ de vision. Et pour moi, non, j'arrive pas en fait à percevoir l'intérêt du truc. Tu vois vraiment, les gens s'imaginent Minority Report ou des choses comme ça. Moi, franchement, faire de l'ordinateur debout avec les bras tendus, ça me fait pas du tout rêver, mais vraiment pas. Je comprends pas en fait, je comprends pas l'engouement. Alors le truc de Microsoft, je l'ai vu, effectivement, c'est super joli, mais bon, les Google Glass, c'était super joli aussi, quoi.
D'accord, très bien. Donc pour Oda, c'est un nouveau Google Glass, quoi, ou un nouveau Kinect.
Mais c'est Microsoft en plus, donc bon, voilà. De base, c'est raté.
C'est cool ce qu'ils font en ce moment. Bon, Sylvain. Sylvain, toi qui est l'euro propriétaire d'un cardboard donc de réalité virtuelle.
Et ah, tu l'offres ?
Bah oui.
Ah putain.
Et qui a testé aussi l'Oculus Rift, donc la réalité virtuelle. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de cette réalité augmentée, donc sur mettant sur impression des informations ?
Et ben, pour moi, les deux sont le futur.
Ah, les deux sont le futur.
Pour des utilisations différentes.
Google Plus était le futur.
Il l'est toujours.
Si tu nous entends.
Pinterest maintenant. Pinterest aussi. Et non.
Pourquoi tu crois aux deux, toi ?
Ouais, la réalité virtuelle, parce que bon, c'est ouf et ça va changer complètement le jeu vidéo et plein d'autres choses. Le porno, enfin tout.
Le jeu vidéo, le porno, tout quoi.
Tout, voilà. Ouais, voilà. On a fait le tour.
Je vois ce qui reste.
On a fait le tour.
Voilà.
Et la réalité augmentée, parce que effectivement, c'est pas super au point. On l'avait sur les téléphones au début des smartphones, c'était un peu galère, etc. Mais il y a, je crois, Google qui a mis un demi milliard dans une entreprise qui s'appelle Magic Leap.
C'était 50 millions la dernière fois qu'on en a parlé.
C'est passé un demi milliard.
Ça fait un zéro là.
C'est 500 millions.
500 millions. Ah bah c'est mieux. Okay.
Et qui ouais, donc du coup c'est plus de crédibilité à tes yeux. Et du coup, qui est une entreprise qui veut remettre du magique dans le monde grâce à la réalité augmentée. Mais ça m'intéresse parce que les mecs sont très secrets. Ils viennent d'embaucher un romancier de science-fiction qui a été nommé Chief Futurist.
C'est pas mal.
C'est quand même un super poste. C'est un super poste.
C'est tellement du bullshit.
Je suis chef du futur.
C'est mieux que Atali.
Et pour l'instant, le mec est payé pour écrire des articles de blog. Donc c'est intéressant.
Bon, c'est peut-être ça le futur.
Et donc ouais, un demi milliard dans cette entreprise. Donc je pense que Google va essayer de faire des choses assez fantastiques avec, que ce soit avec des lunettes ou autre chose.
D'accord.
Et je pense que si on peut augmenter la réalité, ça peut être intéressant, tu vois. Comme avoir, je sais pas.
Avoir ta fille dans tes mains, qui tient un chien dans ses mains.
Non, mais.
Comme le propose la homepage de ta boîte mytho, là.
C'est plutôt, par exemple, pour les enfants, de tenir effectivement des animaux en 3D dans les mains.
Ouais,
quand tu fais du ski, d'avoir en surimpression de ton masque, ta vitesse, ton GPS, où t'es sur le plan, etc., ton altitude.
Ça, ok, oui, d'accord.
Je sais pas, il y a plein d'applications qui peuvent être très intéressantes.
Ok, donc Sylvain, plutôt enthousiaste. Fibre.
Alors, il y a deux ans.
Ah, attention.
C'est
il y a
le
deux
fibre.
Ans, vous, tu m'as posé la question. Victor,
vous voyez pas le truc, mais Fibre vient de faire le signe de Maître Capello. Et en général, quand tu fais le signe de Maître Capello, c'est pas OK.
Il y a deux ans, tu m'as posé la question. Que penses-tu de Vine? Et j'ai dit, nos futurs.
Voilà.
Et aujourd'hui, Vine marche très bien.
Oui.
Et là, je te dis, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, ça marchera pas.
Ouais, donc achetez les actions tout de suite, quoi.
Non, mais juste un indice.
Toi, t'y crois pas.
Juste un fait.
Ouais.
Les prévisions, et dément-moi si j'ai tort, cher Sylvain, les prévisions de vente, de chiffre d'affaires dans le jeu vidéo sont supérieures sur le mobile à tous les autres supports pour 2015.
Ouais. Ouais. D'accord.
Donc ça veut dire qu'on va regarder dans une petite fenêtre et pas du tout dans votre réalité augmentée qui marche pas du tout, et pas du tout dans l'Oculus Rift non plus, où les mecs qui sont aussi en train de chercher des jeux parce que ça marche pas trop, et peut-être qu'on va essayer de se spécialiser dans des trucs qui sont pas des jeux. Il faut les voir, ils sont en sueur, les mecs. Donc à mon avis, c'est, déjà en tout cas, c'est, ça a pas de futur pour moi, et pour 2015 c'est mort. Voilà.
Ok, donc Fibre contre. Mélissa, toi.
Moi,
qu'est-ce
je suis
que t'en
réalité
penses
augmentée.
Ah, donc toi t'es team réalité augmentée.
Ouais, HoloLens, j'ai trop envie de tester.
Donc toi aussi t'as été un peu ambiancé par cette présentation Microsoft.
Mais vous savez, depuis le début de 404, que je fantasme sur l'appli de réalité augmentée qui me donne la vie de tous les gens que je vois sur le quai du métro.
Ah oui, c'est
vous en avez déjà parlé.
Tu voulais faire le Shazam des gens, c'est ça?
Voilà, enfin, exactement.
Le Shazam
donc,
des mecs.
J'espère que Microsoft a ça.
Les journalistes.
Donc toi t'es pour.
Ah oui, moi je suis à donf.
Très bien.
Après, j'ai pas testé l'Oculus Rift. Je sais que vous l'avez tous testé ici.
Bah oui, voilà, ça c'est le premier truc déjà de base pour comparer deux trucs. Faut peut-être l'essayer les deux.
Non, mais
journalisme.
Non, mais l'Oculus Rift, ça existe déjà. Tu vois, enfin, c'est pas le futur. Alors que là.
Ouais.
Oui, enfin, c'est pas en vente.
On n'y est pas encore, quoi.
Mais on y sera jamais, en fait.
On a déjà tout. Vous avez déjà tout testé.
Ah bon, enfin bref.
Tu verras dans 5 ans.
Ouais, je verrai, ouais.
Deux enthousiastes.
Des petits dalmatiens sur tête.
Deux enthousiastes et deux contre, en tout cas, donc égalité. On voit ça en 2016, 2017 ? Allez, ouais. 2017.
Jamais.
Allez, 2017.
Sujet numéro 2.
Laissez à vos objets le temps de vieillir.
C'est un beau titre.
C'est un beau titre, c'est un cri du cœur. On dirait une chanson de Michel Fugain, mais c'est la chronique de Daz, en fait. Alors, Daz, laissez le temps à vos objets de vieillir. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qui se passe ?
Eh bien, en ces temps troublés, j'aimerais poser un slam.
Oula.
J'aimerais poser un slam pour les victimes collatérales du progrès. J'aimerais poser un slam. Vous avez vu la pause pour l'effet, quand même ? J'aimerais poser un slam pour ceux qui rendent Internet concret. J'aimerais poser un slam. J'aimerais poser un slam pour vous tous, les objets.
Oh.
Parce que bon, avant la famille...
C'est les objets qui applaudissent, là.
Avant la famille, avant la sexualité, avant le cerveau des adolescents, c'est mongolien, ou avant même le bon sens paysan de Fibre Tigre, il y a un truc qu'Internet a démoli, c'est le rapport à l'objet. Et c'est paradoxal, oui. Vu que plus que jamais, ils sont partout, hein, les objets. Ils sont connectés, ils sont métables, Sylvain, je t'ai emprunté le terme. Ils sont dans vos poches, sur vos poignets, dans vos tables de nuit, sur vos gosses, sous vos yeux, et pourtant, vous ne les voyez pas. Vous voyez Internet à travers eux, mais eux, vous ne les regardez pas.
C'est comme un vieux couple, on ne se regarde plus.
Vous ne les regardez plus, et ça m'attriste complètement. Un exemple simple, facile, citez-moi la marque et le modèle de votre avant-dernier mobile. C'est chaud. Maintenant, contre-exemple, citez-moi la marque et le modèle de votre premier mobile. Moi, c'était un Motorola Flair, c'était dans les années 90. Voilà. Donc là, bon, c'était une merde, hein, le Motorola Flair, je précise, mais je m'en rappelle, justement. Vous voyez la pente un peu à 45 degrés qui nous plonge vers l'irrespect le plus total, là. Vous voyez à quel rang vous avez relégué l'objet au profit de la fonction, comment le contenu masque totalement le contenant. Vous avez l'air en bonne santé tous autour de cette table et dans l'assistance. Il m'a tué mon effet.
Donc on rappelle que Sylvain et moi souffrons d'une bonne fièvre des familles depuis 2 jours, voilà.
Non, mais ça c'est la fièvre normale. Je parle de vraiment santé. Vous n'êtes pas mourant, quoi. C'est ça que je veux dire. Encore que maintenant je me pose la question. Et pourtant, laissez-moi vous le dire, tous autant que vous êtes déjà mort à l'intérieur. Mais c'est pas votre faute. C'est pas votre faute. Donc une huile de ouf à geler. C'est la société qui est comme ça. Cette garce. Elle vous a forcé à rompre en fait le lien affectif que vous construisiez avec l'objet en vous permettant d'en changer à une fréquence indécente, en vous faisant miroiter la nouveauté comme graal à atteindre pour être dans le coup, et en vous faisant croire qu'avoir un Samsung Galaxy S5 vous permettrait de pécho plus facilement en soirée VIP. Pauvre con. La société, cette hyène, vous a forcé à rompre le lien quand elle vous a proposé de sauvegarder le contenu de votre téléphone pour l'utiliser dans un modèle plus récent. Vous voyez l'indécence là ou pas ?
Non.
Non, ça vous choque pas ? Si on vous proposait par exemple de télécharger votre grand-père dans un adolescent de 15 ans, vous l'accepteriez ou pas ?
C'est une métaphore qui est bien costaud.
Mais oui, mais là comme ça les gens visualisent tout de suite. Pour moi, quand les gens sauvegardent le contenu d'un téléphone pour le mettre dans un autre, pour moi c'est comme s'ils téléchargeaient leur grand-père dans leur petit frère. C'est assez sale. Alors pourquoi le faire, hein, ça, si vous le feriez pas avec un grand-père et votre petit frère, pourquoi le faire avec un ordinateur ou un smartphone ? On n'est pas des si longs, putain. Référence geek. Il fut un temps où un appareil faisait partie de la famille. On vivait avec, on construisait une histoire. Et puis quand il clamsait, déjà on disait qu'il clamsait, on disait pas qu'il ne fonctionnait plus. On l'enterrait au fond du jardin, sous le cerisier, avec le chat et les grands-parents, justement. Désormais, l'objet n'a plus le temps de clamser, puisqu'on prévoit déjà de le revendre alors qu'on n'a même pas fini de l'acheter. Et là, je pense à tous les gens qui vont chez Cofidis et Cofinoga, hein, pour payer des trucs en 12 fois sans frais, pour au final déjà commencer à réfléchir à vendre l'outil avant même qu'ils aient fini de le payer réellement. Je pense à tous les mecs qui ont des Macs, je pense à vous les gars, et qui gardent l'adhésif de protection autocollant sur le capot pendant 1 an pour éviter les rayures, parce que tout le monde sait que les rayures sur le bon coin ça permet pas de vendre le produit, alors que les rayures, les gars, c'est pas un défaut. Les rayures, ce sont les rides de l'objet. Les rayures, c'est ce qui prouve que l'on est vivant. Mais c'est vrai.
Hashtag Michel Fugain.
Alors par pitié, arrêtez de mettre votre iPhone dans une housse à la con quand vous vous en servez pas. Arrêtez de remettre cette saloperie de protection en polystyrène flexible sur le clavier de votre MacBook quand vous le refermez pour protéger l'écran. Et oui, définitivement...
Il y a des rires, hein, il y a des gens qui se reconnaissent là.
Définitivement oui, jetez le papier bulle quand vous avez ouvert le colis, il ne sert à rien. Laissez vos appareils se patiner, laissez vos objets vivre leur vie et faire leur propre expérience. Et si vous voulez savoir, ben ouais, mon petit Mac Mini de 2006 qui m'accompagne tous les jours, il a sa place réservée dans le caveau familial avant même ma fille.
C'est beau et c'est affreux en même temps. Hein. C'est beau et c'est affreux. En fait, donc tous ces gens qui, du coup, se foutent totalement de l'objet maintenant, mais d'une certaine manière, pour te prendre un revers, on va voir les autres chroniqueurs, c'était une sorte d'utopie que les gens se disent justement. L'information vivra et on n'a plus à se rattacher à des choses bassement matérielles. Toi, tu prends la chose
à revers,
un ancrage.
Pour moi, il y a un vrai problème là-dessus, c'est qu'on est en 2015, les voitures ne volent pas encore, mais bon, elles se conduisent déjà toutes seules, c'est un grand pas. Pourtant, tu vois, là, tu achètes une voiture, n'importe qui achètera une voiture aujourd'hui, lui donnera un petit nom à sa voiture, ça sera sa titine, ça sera sa prénom de la personne mobile, ça sera, tu vois. Ton téléphone, tu ne lui donnes pas de petit nom.
Ah oui, l'ordinateur non plus.
L'ordinateur non plus.
Apple t'oblige à mettre un nom. Hein.
Non, mais c'est ton nom que tu mets, tu vois.
Fibre, est-ce que t'es sentimental avec tes objets, toi, ou pas? Ou est-ce que t'es en mode, je m'en fous, tout est dans le cloud, tout est synchronisé, connecté?
Il n'y a pas d'âme, de toute façon.
Ouais. Je pense, comme Bouddha, que la mort fait partie de la vie, et oui. Et,
oh là 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 là.
Et oui, non, mais par contre, je fais partie de ces personnes qui collectionnent.
D'accord.
Et effectivement, j'ai souvent les choses en double. C'est-à-dire une chose de collection et une chose pour bien l'user comme je veux.
Voilà. D'accord.
Mais c'est vrai que
par exemple, un jouet, des chaussures, quelque chose que tu vas acheter vraiment deux fois.
Oui, notamment les livres. Et puis,
Segway.
Mais par exemple, quand moi j'adore les jeux PlayStation 2, par exemple. J'ai une vieille PlayStation qui est usée. D'ailleurs, je la change régulièrement parce que je la tue régulièrement. Mais c'est vrai que quand je vois des gens qui ont des collections de jeux vidéo immaculées, ça me rend triste parce que c'est des gens qui ne jouent pas au jeu finalement.
D'accord.
Et il faut que les choses elles sont destinées à être consommées et vécues, et c'est ça leur belle vie, tu vois. Et sinon, c'est quelque chose de perdu.
On dirait un peu la morale de Toy Story 3, mais bon. Sylvain,
vous vous rendez compte que vous êtes en train de donner une âme à des objets?
Ah, Sylvain, terre à terre.
Est-ce que vous êtes des animistes de la société de consommation? Est-ce que c'est ça votre religion en fait?
C'est pas ton but dans la vie, toi, en tant que marketeur?
Chut.
Son discours.
Non, mais en fait, tu le sais très bien et je suis 100% d'accord avec toi.
Mais évidemment. Mais l'âme t'a forcé à dire que t'étais contre.
Non, hein. J'ai rien dit. Je suis 100% d'accord avec toi et ce qui est assez intéressant, c'est que même à l'époque de la pré-époque de l'information et du smartphone, etc., quand mon père achetait des voitures pour les revendre 3 ans plus tard, une fois qu'il avait atteint 100 000 km, même là, alors qu'on pensait déjà à la revente, il fallait quand même que l'objet vive, il fallait qu'on l'emmène partout, et tu t'y attachais vraiment émotionnellement. Et quand mes parents vendaient la voiture, j'étais triste.
Ah oui?
Ouais, j'étais vraiment triste, parce que t'as vécu des choses avec, etc. Et moi, je suis pour rayer les smartphones, je suis pour coller des autocollants sur les MacBooks, je suis pour qu'il y ait de la poussière et des miettes de sandwich qui s'accumulent entre les touches du clavier.
Ah, c'est affreux, ça.
Moi, je suis pour tout ça. Je suis pour retourner ton clavier une fois tous les mois pour voir tout ce qu'il y avait dedans, etc. Non, mais parce que en plus.
Mais est-ce que par exemple, si un jour tu revends ton téléphone ou ta tablette, ça va te faire quelque chose? Tu dis, je m'en fous, il y a le nouveau qui est tout brillant, qui est vachement
mieux. Je revends pas, moi.
Ah, tu revends pas?
Non.
D'accord.
Pratiquement pas. Je revends pas. Et en plus, c'est la seule façon de s'approprier l'objet pour que ça devienne vraiment le tien. Parce que tout le monde a un iPhone 6, mais un iPhone 6 avec tel autocollant, rayé sur le côté, le petit bout d'alu enfoncé sur la gauche parce que je l'ai fait tomber 3 fois toujours au même endroit. Ça, personne là, c'est le mien, tu vois.
D'accord. Donc, toi, tu es pour l'incarnation des objets ou la personnification des objets.
Voilà. S'approprier l'objet par en le faisant vivre avec toi, quoi. Il vit avec toi, donc. Il a les mêmes fêlures, si tu veux.
Oh, c'est beau. Vous êtes beau ce soir, dites-le. Toi, Mélissa, du coup?
Je suis très attachée à mes objets.
Oui.
Parce que j'ai pas vraiment le choix. Donc, je n'ai pas encore d'iPhone 6, Sylvain.
D'accord.
Non plus, hein.
J'ai toujours mon iPhone 4 qui ne marche plus.
Bah voilà, c'est beau.
Donc,
ça.
Non, mais même mon iPhone.
Il faut l'enterrer, Mélissa.
Je me souviens de mon téléphone d'avant et de mon téléphone d'avant et de mon téléphone d'avant parce que j'en ai eu que 4 dans ma vie.
Ouais, on dirait que tu parles de tes mecs.
Non, ça, elle s'en rappellera pas.
Alors, 2002-2005, un gros relou. Un gros relou, une
attache. Et je sais toujours où est mon iPhone précédent, et je ne l'ai pas revendu, je l'ai encore. Et effectivement, moi, je les cache, je les garde et je les aime, quoi.
Donc, vous êtes là, autour de la table, vous êtes unanime.
On est tous d'accord.
Ghislain, tu gardes
tes
objets,
contre.
Toi
non, moi, je ne garde pas.
Ah, donc Ghislain ne garde pas, il s'en fout. D'accord. Donc, à part Ghislain et moi, vous êtes vraiment des gens qui êtes très attachés à vos objets. Et même si, comme
tu
disais.
Mais toi,
comme...
t'en reçois plein, en fait, tu vois.
Oui,
parce
mais
que moi, si je recevais des iPhone 6, par exemple,
ou
je les utiliserais.
Bah ouais. Non, mais Daz en parlait dans la chronique, mais c'est intéressant. On est dans une époque où les données, qui sont censées être les choses les plus importantes aujourd'hui, survivent à l'objet. Est-ce que ça ne dévalorise pas l'objet? Parce que le plus important, c'est de garder des photos de tes potes et tes musiques préférées. Et qu'à un moment, le support sur lequel tu lis est peut-être moins important qu'avant. Fibre.
Il ne faut pas oublier quand même, ce sont des objets qui valent cher. C'est-à-dire un iPhone 5 aujourd'hui, c'est de l'ordre de 500 euros.
Ouais.
Et quand vous mettez 500 euros dans quelque chose, peut-être que vous n'avez pas envie de le jeter, quoi, même s'il ne vaut plus rien.
Non, mais de le revendre.
Oui.
Parce que t'as pas de race.
Ouais, mais t'as pas peur que le mec il prenne ton iPhone et.
Ah, mais moi je le ferai pas.
Imaginons. Il retrouve
prépuce dessus.
Oui, où il retrouve des choses à toi dans ce téléphone. C'est le sanctuaire de l'intimité aujourd'hui. Donc
non, mais c'est pour ça que moi personnellement je vendrai jamais un téléphone. Ouais. Déjà parce que je les ai tellement défoncés qu'ils sont invendables.
Ouais.
Mais surtout parce que ouais, moi je trouve ça triste. Quand je vois les photographes avec leurs réflexes à 3000 euros, leur Canon 5D Mark II, Mark III. Avec du gaffeur partout, dans les coins, pour que quand il le pose, ça se raye pas, machin. Alors que le truc, c'est un grip, c'est une poignée, c'est fait pour prendre des coups, tu vois. Et les mecs protègent la poignée. Je me dis, mais bande de cons, enfin, je comprends pas. Protéger un MacBook en alu avec une coque en plastique, c'est complètement con comme truc. Enfin, bon, bref. Je m'emporte, excusez-moi.
Mais c'est pour ça que moi, je crois beaucoup aux objets qui durent toute une vie, en fait. Notamment le projet ARA de Google, là, qui est en fait une plaque en métal.
Ah, c'est un Google. Ça alors.
Non, mais ou alors.
Il est tombé comme ça du plafond, Google.
Non, mais il y en a d'autres. Je me souviens plus du nom du mec qui a proposé aussi comme ça un téléphone qui dure toute une vie avec des éléments interchangeables en fait. Mmh. C'est-à-dire que le jour où on passe de la 4G à la 5G, ben, j'ai juste à déclipser l'antenne et en mettre une nouvelle pour.
Est-ce que tu connais le mythe du bateau des Argonautes?
Le bateau des Argonautes.
Des Argonautes. Jason, les Argonautes. Donc ils reviennent en Grèce et il y a leur bateau. C'est des héros. Et ils gardent le bateau en souvenir. Et au fil du temps, en fait, le bateau il s'abîme, donc il remplace les planches. Mais au bout d'un moment, toutes les planches ont été remplacées. Est-ce que c'est toujours le même bateau?
Ah. Oh.
C'est
une très bonne question. C'est une très très bonne question.
Le jour où tu auras remplacé tous les morceaux de ton téléphone, est-ce que ce sera toujours le même?
Ah.
Bah, il y aura toujours le.
Ok, j'avais pas pensé à ça.
Non, mais il y aura toujours la partie principale du téléphone. Le clavier, par exemple.
Non, mais
un clavier,
la partie principale
besoin
du téléphone,
de
c'est l'histoire associée au téléphone, justement. C'est pour ça qu'il sera toujours là.
C'est beau ce que tu dis, Philippe.
Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un dans le public qui s'est senti visé par la chronique de Daz?
Il y en a des mecs avec des MacBooks immaculés alors que ça fait 6 ans qu'ils s'en servent.
Est-ce qu'il y a des gens qui ici s'en foutent aujourd'hui de
l'objet?
On a
un type là-bas.
Alors, monsieur, venez.
Oh là là.
On le connaît, lui.
Oh là 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 là.
Voilà, la question c'est, est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes toujours attaché à l'objet et vous aimez que, comme une montre, il vive avec vous, qu'il y ait une patine, ou est-ce que vous avez accepté l'obsolescence programmée? Et le plus important, c'est le contenu avant le contenant.
Est-ce que vous êtes ambassadeur Sony aussi? Question annexe.
Et ben justement, on va en parler. En fait, pour moi, Mélissa, tu as dit quelque chose de très, très important. C'est j'ai eu que 4 téléphones dans ma vie, donc je m'y attache. Et Lam, tu as eu 72 millions de téléphones dans ta vie, et donc tu ne t'y attaches pas. Et je pense que la grosse différence, c'est la quantité de cet objet qu'on peut avoir dans notre vie. Moi, je vais prendre l'exemple. J'ai accès à plein d'appareils photo, et je ne m'y attache pas du tout. Tiens, étrange, j'ai une moto et elle a une âme, elle a un nom, elle a une histoire.
D'accord.
Parce que cette moto, peut-être que des motos, j'en aurais que 3 dans ma vie en fait. Donc forcément, elle a une âme et une histoire. Et j'aurais beau remplacer son réservoir, ses rétros, peu importe, c'est la même moto, c'est la même âme et la même histoire. Les appareils photo, j'en aurais accès à je ne sais pas combien du coup.
Alors question annexe, est-ce que c'est peut-être lié au fait que les nouvelles technologies sont obsolètes très vite? Là où un téléphone d'il y a 10 ans est aujourd'hui inexploitable, alors qu'une moto d'il y a 30 ans, elle continue de faire le job d'une certaine manière. Est-ce que le numérique a dévalorisé l'objet?
Je ne suis pas sûr. Je pense qu'on les rend obsolètes parce qu'on a accès à de nouveaux. Mais mon appareil photo d'aujourd'hui, si je l'entretiens, en fait, dans 20 ans, il sera toujours utilisable. Je ne pense pas qu'il soit obsolète de fait. On le rend obsolète. Parce qu'on en a accès à d'autres.
On le veut obsolète, en fait.
Voilà, on le veut obsolète parce qu'on
justifie le changement. Ouais.
Putain, le dernier modèle d'il y a un an, il est beaucoup mieux. Non, en fait, je pense pas que l'objet soit obsolète.
D'accord, très bien, ok. Bon, on va s'arrêter là-dessus. Du coup, il y a plein d'amoureux de l'objet, finalement.
Ouais, mais il y a beaucoup d'hypocrites aussi, là. Défendez-vous, les mecs. Hein,
tu penses à tous ces gens qui mettent du plastique sur leur canapé, sur leur télécommande?
Ouais, comme dans Boys and the Hood, ouais. Assieds-toi sur le plastique, t'es sur le propre. Super.
Bon, vous nous raconterez ça, en tout cas, sur Facebook et Twitter, si vous aussi, vous pensez à la revente et si vous en foutez complètement de votre objet. On attaque une fac.
FAQ.
C'est une question très simple, donc elle est très belle. J'ai reçu le mail de monsieur Delahaye. J'ai pas le prénom, je n'ai que le nom de famille. Ah! Alors, vu qu'il y a deux mots dans ta question, hein, il va falloir le faire très bien, il va falloir déclamer ça de manière très claire. Deux mots. Oui, oui, Marie, en genre deux. Alors.
Question simple, qu'on se pose, je pense, pas souvent. Pourquoi Internet?
Vous avez. 10 secondes. Ouais, on peut applaudir. Question intéressante.
J'ai la réponse.
Daz, la réponse.
Parce que Internet?
Non, je reprendrai la doctrine de Spinoza, n'est-ce pas? sur le déterminisme quantique. Et je te répondrai pourquoi pas.
Oh là là. Donc en fait, t'as pas répondu, t'as esquivé.
Complètement.
Ouais, voilà. C'était. Mélissa, je te sens réfléchir. Non, je passe ton tour.
Non, mais la communication, pourquoi Internet?
D'accord, donc pour toi, c'est la communication. Ok. En numérant la communication. Fibre.
Parce que c'est le seul espoir de l'humanité pour une vraie démocratie.
Pff, voilà. Fibre Tigre 2017.
Mais c'est vrai, c'est vrai.
D'accord, non, mais c'est une réponse.
J'en ferai une chronique.
D'accord, très bien. Le seul vrai espoir pour l'humanité de 2017.
Non, pour la démocratie.
Ah, la démocratie.
C'est-à-dire que chaque personne est une voix qui s'exprime au même niveau que n'importe qui d'autre.
Ah, moi, j'étais parti dans l'humanité directe.
Ça me fait penser à ta chronique sur le village global que tu défonçais totalement, d'ailleurs. Donc, qui va un petit peu à l'encontre de ce que
donc
tu dis.
Donc, toi, Sylvain, qu'est-ce que tu répondrais à monsieur Delahaye? Pourquoi
je
Internet?
Je dirais que l'homme est un animal social. Comme Elisa, qu'il a besoin de communiquer et qu'Internet est une manière. Vraiment très très bien de communiquer au monde entier.
D'accord, donc vous gardez le côté communication.
Ouais.
Ok, très bien. Bah, écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein, c'est plutôt pas mal. Pas de business, pas de techno, pas de choses comme ça.
D'abord, c'est mettre des humains en relation entre eux. Et ça crée la société. Et de la société naît la culture, le business, la technologie et le reste.
Le fric. Okay, on finira sur le fric. Merci beaucoup.
Sujet numéro 3.
Quand les politiques veulent surveiller Internet.
Alors c'est la troisième chronique et c'est un coup de gueule de Mélissa contre les puissants, les politiques qui veulent, attention encore une belle expression, surveiller Internet. Qu'est-ce que ça veut dire surveiller Internet?
Bah pas grand chose en fait.
Ah, mais on l'a beaucoup entendu dernièrement.
C'est ça. Parce que donc moi j'adore ce mot Internet qui veut dire à peu près mille choses.
Communication.
On l'aime tous ici. Mais à côté de tout ça en fait j'ai juste... Après tous ces événements, et après, oui, on va parler de vocabulaire aujourd'hui, alors que 17 personnes sont mortes. Internet. Enfin, tout le monde dit on va surveiller Internet. Alors, juste pour reprendre un petit point de définition, Internet, comme on en parlait il y a 3 secondes, c'est un réseau de réseaux.
Oui.
Donc, surveiller un réseau de réseaux avec plein de ramifications, autant vous dire que déjà, c'est un peu compliqué. Et ça fait 15 ans qu'on a Internet dans nos foyers, chez nous, dans notre petite maison.
En haut débit,
Donc on commence à savoir ce que c'est Internet.
Ouais.
Mais pourtant, les gens continuent à parler de surveiller Internet. Donc pourquoi, comment, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Alors des fois, les hommes politiques trouvent une petite ruse, se disent « Ah, on va utiliser des synonymes
ouais. ».
Donc voilà, je vais vous citer Bernard Cazeneuve qui dit que la France fait face à des cybermenaces.
Des
voilà.
cybermenaces.
Cyber, tu vois, cyber, Internet, cyber...
On sait que c'est.
On comprend pas trop. On comprend toujours pas pourquoi. Alors quand il dit pas cybermenace, il dit la sécurité dans les espaces numériques doit être assurée avec autant de détermination que dans nos villes et dans nos territoires. Donc là, on a toujours pas compris de quoi il voulait parler.
C'est quoi un espace numérique?
Voilà, quel est l'espace numérique? De quoi il parle? Est-ce qu'il parle d'un compte, d'un mail, d'un compte Twitter, de je sais pas, d'un chat quelque part qui se fait? Alors, on veut dire quoi? On veut dire est-ce que les frères Kouachi ont discuté sur Jetok entre eux et du coup ils se sont dit « Eh, on va faire un attentat ». Est-ce qu'ils ont recruté des gens sur Facebook? Est-ce qu'ils ont posté des vidéos de l'État islamique sur YouTube? On comprend rien en fait. Et les journalistes ont beau prouver par A plus B que les mecs se sont pas radicalisés sur Internet, leur réponse c'est encore « On va renforcer la surveillance sur Internet ».
D'accord, donc c'est vraiment une totale incompréhension
de la part
des politiques.
Il y a 15 ans on avait dit « C'est la faute au téléphone portable ». Est-ce que c'est la faute au téléphone portable? Non, c'est juste un moyen de fucking communication.
De fucking communication.
De fucking communication.
C'est quoi l'Internet?
Non mais en gros, en fait, ils veulent construire un espèce de gros monstre qui serait un espèce de poilu, intégriste, amateur de sang, pervers, mais qui aime les chats et qui permet à tout le monde d'échanger. C'est un peu ça, c'est genre, ça fait tout Internet, donc c'est genre le méchant et le truc sur lequel on est tous en train de discuter. Et donc pour surveiller Internet, ils ont quand même toute une batterie de mesures qui ont été votées. Donc il y a le blocage administratif de sites web. Donc là, tout d'un coup, ils ferment un site web parce qu'ils ont décidé que celui-là, il fallait pas. On fait des perquisitions informatiques. J'adore ce...
C'est quoi des perquisitions informatiques?
Je pense qu'en fait, c'est juste des flics qui déboulent chez des gens.
D'accord, donc des perquisitions, quoi.
Voilà. Une veille informatique a été confiée à la DGSI et au Service Central de Renseignement Territorial. Donc on sait toujours pas ce qu'ils veulent dire par veille sur Internet, parce que quand vous allez sur Internet, par définition, vous faites de la veille.
Ouais.
Voilà. Sur les réseaux sociaux. Il dit qu'il faut responsabiliser les acteurs d'Internet. Ok. Donc ça veut dire quoi, responsabiliser les acteurs d'Internet? Tout ça, c'est une espèce de grand flou.
Oui, ça ressemble beaucoup à du vent.
Qui a l'air de rassurer plein de gens. Et moi, ce qui me fait vraiment flipper, en fait, c'est que j'entends les gens dire « Ouais, mais ils se sont radicalisés sur Internet ». Ma mère me disait ça encore il y a une semaine. Je lui dis, mais ils sont radicalisés en prison. Internet, ils ont peut-être discuté sur Internet, mais ils sont pas radicalisés sur Internet. Ils sont pas dit, genre, ce matin, je me connecte et voilà, je vais me radicaliser en discutant sur JTalk. Donc, j'en ai juste marre, en fait, pas qu'on veuille surveiller Internet ou qu'on fasse des lois pour aller voir ce que font les gens. Je veux juste qu'ils arrêtent de dire surveiller Internet, parce que ça veut juste rien dire. C'est comme si on voulait boucher les tuyaux, empêcher les communications, alors qu'en fait, on va s'attaquer à une personne, deux personnes, parce qu'elles ont des activités qui sont à la fois en prison, à la fois sur Internet. Et il y a ce journaliste du Monde qui disait il y a quelques jours, les politiques accusent Internet, mais personne n'a songé à accuser Gutenberg et l'imprimerie au moment de la publication de Mein Kampf. C'est un énorme point Godwin, mais il y a un peu de ça dans ma chronique. Quoi. Surveiller Internet, ça ne veut absolument rien dire. J'aimerais arrêter de l'entendre. Et en fait, c'est cette espèce de gros monstre. Et les lois, si on fait les lois dans cet esprit-là, sans expliquer aux gens, sans avoir un peu de pédagogie, sans dire, voilà, on veut faire ça, précisément ça et ça et ça, bah, les gens ils vont se dire, ouais, mais ils vont faire comme la NSA, en fait.
Donc pour toi, en fait, Mélissa, les gens... Les politiques ou les dirigeants se trompent de colère et de cible, en fait.
C'est pas qu'ils se trompent, parce qu'ils savent pas en parler, quoi.
Ils sont vieux,
ils
mais
savent pas expliquer aux gens. Et du coup, les gens continuent à dire « Oh, on va surveiller Internet, Internet, c'est le mal. » Putain, mais Internet, c'est ce qu'on démontre ici depuis, enfin, dans l'émission depuis 3 ans, quoi. C'est une société, c'est un moyen de communication.
Tu veux dire que tu te plains que les dirigeants n'écoutent pas assez sur le 404?
Exactement.
Je suis d'accord.
C'est pour ça qu'on
d'accord.
est ici, là. Tu
ouais,
vois.
Je suis d'accord.
C'est pour être entendu.
Est-ce que Mélissa a raison? Est-ce que les gens sont à la masse, ou est-ce qu'à un moment, il faut... Est-ce qu'au-delà des gens qui se trompent de termes, etc., il y a quand même quelque chose à faire sur Internet, ou c'est quelque chose qui est déjà impossible en vrai? Et surtout, Internet, comme dit Mélissa, n'a pas de morale. Internet est un outil avant d'être une cause ou autre chose.
Oui.
Oui, oui.
Oui, oui pour les deux. Bien. Oui, parce que effectivement, les sphères politiques sont complètement à la masse sur le numérique. À part 2-3 qui traînent, voilà,
dont une qui est venue chez nous,
qui a une très belle vision de ce que c'est. Mais effectivement, le ministère de l'Intérieur, le ministère des Affaires étrangères, ce genre de choses, voit Internet comme un espace, comme un cyberespace, alors qu'on sait que le cyberespace n'existe pas et que c'est juste une prolongation de la vraie vie. Donc, c'est pas des endroits qu'il faut surveiller, c'est des gens et essayer de.
Il faut surveiller peut-être les endroits où se regroupent les gens, en fait.
Ouais, mais
c'est peut-être ça aussi qu'il voulait dire par surveillance d'Internet. C'est parce que c'est pour moi, c'est un élément de langage.
Tu veux dire que t'as des sortes de cages d'escalier de l'Internet?
Ouais, bah ouais. Ouais.
T'as des rayons.
Un hall, tu vois.
Faut limiter les gens à deux cave. Dans les cages d'escalier de l'Internet.
Non, mais voilà, c'est comme si tu disais pour lutter contre la délinquance routière, ça sert à rien de surveiller les routes parce que il faut quand même surveiller les routes.
D'accord. Donc tu penses qu'il y a quand même une part, enfin, même s'ils s'expriment mal, il y a une part de bon sens.
Oui, je pense qu'ils se sont mal exprimés. C'est surtout qu'ils s'expriment pour essayer de toucher un maximum de personnes, faire réagir et que Madame Michu, qui comprend rien en fait, comprennent le message, en gros, c'est que il y a des gens qui sont certes des connards dans la vraie vie et qui se regroupent entre connards sur Internet pour devenir des méga connards en fait
dans la vraie vie,
de la vraie vie, mais aussi, enfin, Internet permet justement à des gens qui en temps normal se seraient peut-être jamais rencontrés. Moi, je dis pas de se radicaliser. Je suis d'accord avec toi. Ils se sont radicalisés, certains en prison, d'autres dans leur quartier, etc. Mais Internet, quand même, c'est ce qui a permis de les assembler, de les faire organiser. Se rencontrer.
Non, mais comme les téléphones portables il y a 15 ans, quoi.
Et bah oui, mais c'est pour ça. Il y aurait pas Internet, ça serait les téléphones portables.
Mais t'as déjà entendu quelqu'un dire c'est la faute aux téléphones portables?
On va surveiller les téléphones portables. Pour le 11 septembre, quand même, c'était un peu chaud.
Oui, mais il disait pas qu'on va surveiller tous les téléphones portables.
On va surveiller les aéroports,
évidemment.
Fibre.
En préambule de ma réponse. Je tiens à dire que Al-Qaïda signifie la base de données. Mais
C'est vrai?
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bah bien sûr, vous savez pas.
Al-Qaïda,
c'est la base de données.
D'accord.
Voilà. Ah, exactement.
Et est-ce qu'il y a des gens
avec autant
Google,
de Gutenberg, elle se rappelait Al-Kitab, je pense, le livre. Mais bon, j'ai déjà eu dans une vie antérieure une perquisition informatique.
Ah oui.
Alors je vais vous dire ce que c'est.
Ah, t'es un petit bad boy en
non,
fait.
Non, pas du tout,
J'ai plusieurs vies de fibrotique.
Vous allez savoir, vous allez comprendre parfaitement ce que c'est et pourquoi il y en a besoin. C'est que tout simplement, si demain vous cherchez le frère Kouachi, qu'il est sur Facebook, qu'il est sur Gmail ou qu'il est sur Mythique.
eh bien, la police, elle ne peut pas dire à Mythique, allô, je vais avoir les coordonnées de Kouachi, parce qu'ils vont dire, je suis désolé, même si vous êtes la police, on n'a pas le droit de vous donner, c'est la CNIL. Donc, ils vont envoyer une commission rogatoire par fax pour avoir les coordonnées de cette personne. Et c'est pour ça que cet outil, il est utile. Ensuite, contrairement à la génération téléphone mobile, la génération Internet, elle a changé des choses. C'est qu'aujourd'hui, on envoie les gens en Irak ou en Syrie ou au Yémen se former. Demain, vous débarquez au Yémen, vous n'allez pas dire où est le camp d'entraînement pour les Kalachs. Je veux dire, il faut une logistique internationale hyper, hyper importante et elle se fait sur Internet. Donc la question de l'Internet, elle est très importante. Et effectivement, les politiques résument ça en disant on a besoin de surveiller Internet, mais c'est une façon simple de dire on a besoin d'argent, parce qu'ils ont toujours besoin d'argent.
C'est bon, c'est ta conclusion du point d'avant, c'est le fric.
Mais ouais, non, mais je vais vous dire pourquoi ils ont besoin d'argent. Parce qu'aujourd'hui, pour surveiller Internet, c'est-à-dire surveiller l'équivalent de F de souche Al-Qaïda, il faut se taper des milliers de forums en arabe ou en farsi. Et donc déjà, il faut savoir le parler. Ensuite, il faut être confidentiel défense. Ensuite, il faut être briefé sur la situation. Ensuite, il faut être briefé sur les personnes qu'on cherche en particulier. Après, il faut se taper 1 million de messages avec des mecs qui disent des choses très...
banales.
Non, on va dire très irritantes, pas très agréables à lire. Voilà. Ouais. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si vous avez rêvé d'être espion, si vous parlez demain persan, donc farsi ou arabe, franchement, vous n'allez pas travailler au renseignement parce que c'est chiant et c'est très mal payé. C'est-à-dire que les gens qui parlent arabe aujourd'hui, ils préfèrent être traducteur, c'est beaucoup mieux payé. C'est aussi simple que ça. Et c'est pour ça aujourd'hui que le gouvernement, il a besoin de ses petites mains espions pour surveiller Internet. Parce que je suis désolé, enfin, en ce qui me concerne, j'ai l'impression que c'est sur les forums que ça se passe. Et c'est la même chose pour les réseaux pédophiles.
Donc toi, Fibre, tu prends le contrepoint de Mélissa, tu penses qu'il faut surveiller Internet?
Ah, je pense, mais de toute façon, excusez-moi, l'armée, c'est pas des branques. Hein. C'est pas Cazeneuve qui a choisi ça, c'est ses conseillers, c'est l'armée qui a fait des rapports à un moment. Et si pour qu'ils disent, alors qu'on meurt de faim, qu'on a besoin d'argent de tous les côtés, faut mettre de l'argent là-dedans, c'est qu'il y a vraiment un problème. Voilà.
D'accord, donc toi, t'es pour. Enfin, tu comprends qu'on puisse parler de surveillance d'Internet?
Oui, 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 je comprends tout à fait.
Mais ça te fait réagir du coup. Ça te fait rire.
Moi, je ne suis pas contre une forme de surveillance et un travail de l'armée. Oui. Je ne suis pas non plus débile. Mais l'idée de dire surveiller Internet me semble crétine. Et surtout, n'aide pas les gens à savoir de quoi on parle en vrai.
Très bien. Donc pour toi, ça reste une sorte de gros raccourci très flou. Quoi.
Je pense qu'il y a effectivement une mission de pédagogie à faire auprès des Français plutôt que de sortir des mots aussi flous que surveiller Internet qui veulent absolument rien dire.
L'espace numérique de cyberdjihadisme.
Oui, voilà.
En fait, ils peuvent pas dire on paye nos espions trop peu.
Non, mais ils peuvent dire concrètement ce qu'ils vont faire. Mais Cazeneuve, il comprend pas ce qu'il dit. Il sait pas quand il dit on va surveiller Internet. Pour lui, ça semble très clair. Et ses équipes vont très bien faire le travail. Mais il devrait avoir un discours plus précis. Et faire de la pédagogie auprès des Français, des internautes, pour expliquer exactement ce qu'ils comptent faire.
Mais c'est une phrase qui va dans le sens de ce que je veux dire, va dans le sens de Mélissa. C'est une phrase aussi qui a une vertu électoraliste, c'est-à-dire que la majorité des gens disent ah bah tiens, c'est un bon gars ce Cazeneuve, il va surveiller l'internet qui est méchant, parce qu'on a toujours peur de ce qu'on comprend pas.
Donc tu penses qu'on s'attaque plus aux gens qui s'y connaissent moins? Là, je voyais dans les réactions du public, j'en ai reçu une d'une jeune fille qui me dit Clara que ses parents donc ont découvert avec tous ces événements Anonymous et compagnie et qui sont en flip total, qui veulent éteindre les smartphones, qui veulent se couper de tout du coup. Donc il y a quand même des gens sur lesquels ça fonctionne, ce genre d'argument et ce genre de menace et de crainte.
Mout, il a arrêté 4chan, donc
il a flippé,
bien
quoi.
La preuve que Bernard Cazeneuve l'a fait flipper, hein.
Non, mais le truc c'est que ça fonctionne, mais c'est pas, enfin, la réaction est pas ce qu'on espère. Nous d'accord. On veut que les gens utilisent Internet de façon responsable, pas qu'ils en aient peur en fait. D'accord. Et avec ce discours là les gens en ont peur.
Ça, pour toi, c'est un même discours qu'à l'époque où tu avais sur un discours sécuritaire, où on faisait gonfler un peu la menace des banlieues, de certaines communautés, etc. Il y avait des raccourcis, puis il y avait un grand sac dans lequel on ferait plein d'idées différentes.
Voilà. N'allez pas sur Internet.
Il faut avoir peur d'Anonymous. Il faut avoir peur d'Anonymous comme un gang
de. En fait,
Non, mais il faut avoir peur d'Anonymous comme un gang de truands qui ont des couteaux. Si vous allez les voir en disant vous êtes des crétins, ils vont vous donner un coup de couteau. Si vous restez loin d'eux, ils vous feront rien. A priori, ils ont mieux à faire. Mais c'est vrai.
Ça va faire un beau débat au deuxième tour entre Sylvain Pal et Fibre Tigre en 2017. Est-ce qu'il y a des gens dans le public que ça a fait réagir cette idée? Alors, deux personnes, on va vous faire. Allez-y, chacun votre tour peut-être. On n'a pas de politesse, c'est 404. Hein. Le chroniqueur se coupe la parole tout le temps, vous commencez pas.
Mais n'importe quoi.
Alors, bonsoir.
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 La réflexion que j'avais, c'était la seule chose qu'on va réussir à faire, c'est effrayer les lambdas sur Internet. Et les vrais connards, eux, vont se cacher derrière des cryptages de bâtards, derrière des couches, derrière des proxys, et ça va être de plus en plus dur de les repérer.
D'accord.
En fait, ils vont être vraiment encore mieux planqué que d'habitude. Et pour l'espion lambda, ça va être super chiant.
Donc pour toi, surveiller Internet n'a aucun bon effet. C'est qu'on va effrayer une majorité et qu'on va aider une minorité à se blinder d'une certaine manière.
Est-ce que la vraie utilité de cette citation, c'est pas surveiller la délinquance moyenne? Est-ce que c'est le terrorisme, on s'en branle un petit peu quelque part? Excusez-moi, je suis.
On n'est pas un raccourci près dans cette émission, il n'y a pas de souci. Mais ça, tu voulais réagir par rapport à ça, du coup, pour
non,
toi.
Je ne veux pas non plus aller dans les théories du complot de, en fait, il dit ça pour dire ça. Donc, ouais. Je ne pense pas que tu voulais dire ça en vrai, mais je pense qu'il y a des cellules, ils font leur job et il faudrait juste qu'ils en parlent mieux. Quoi.
D'accord.
Mais moi, je pense que je rejoins le point du jeune homme. Je pense qu'il a tout à fait raison. On n'a qu'à voir ce que ça a fait à Dopi.
Oui.
Adopi, ça a permis à plein de mecs qui n'auraient jamais su ce que c'était qu'un VPN et un proxy anonyme.
Arrête, tu vas spoiler la prochaine FAQ. Bon, c'est pas grave. Okay.
Non, mais voilà. Enfin, en gros, quand tu essaies de mettre un moyen de répression quelque part, les gens les plus déterminés continueront à trouver des moyens de contourner l'obstacle. De toute façon, donc.
Très bien. Ce que tu disais, c'est que le discours flou que les hommes politiques ont, c'est justement pour ne pas que les terroristes ou les cellules djihadistes apprennent à acquérir les connaissances techniques pour se cacher de la surveillance. C'est ça que tu disais?
C'est ce que ça crée.
Non, moi,
c'est l'inverse.
Non, c'est justement le discours crée plus d'expertise de la part de ces gens qui veulent vraiment utiliser Internet.
Ok. J'ai rien compris.
Voilà. Allez, tu vas être mouché. Deuxième réaction, du coup, et on va finir dessus. Bonsoir.
Bonsoir. En fait, moi, je voulais juste rappeler quelque chose. C'est qu'il y a déjà quelques mois, il y a eu un leak de câbles diplomatiques.
Oui.
Et en fait, on avait appris aussi qu'il y avait une guerre pour les câbles sous-marins.
Oui.
Et le but de cette guerre n'est pas de savoir qui contrôle, mais de savoir qui peut voir les informations.
Oui.
Donc, ce qu'il faut se dire, c'est que la DSI a déjà plein de petits serveurs qui savent pertinemment ce que vous faites.
Il y a déjà une surveillance effective de l'Internet.
C'est ça. Les USA le font. La France le fait via Orange.
Oui.
C'est pour ça qu'Orange a plein de câbles sous-marins. Et de plus, si vous voulez vous amuser, vous pouvez regarder le boulevard Mortier sur Google Maps. C'est magnifique parce que c'est flouté.
Oh là 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 là, mais c'est pas une théorie du complot.
C'est un des deux thèmes de soir avec Michel Fugain, donc après, c'est tu choisis.
Ouais,
D'accord, non, mais c'est quand même intéressant. C'est qu'effectivement, comme tu dis, on va pas se leurrer, il y a quand même déjà des grandes opérations de surveillance de l'Internet de la part de gouvernements qui existent.
Je sais pas si c'est de la vraie surveillance ou si c'est juste de la collecte de données de manière un peu random.
C'est pas pareil.
J'ai quand même effectivement, moi, des connaissances qui sont activistes, hackers, qui ont fait des choses pour la Syrie et ce genre de choses, qui ont déjà été invités,
ouais.
C'est pas des convocations ni des gardes à vue ni quoi que ce soit, mais qui sont invités par le renseignement à discuter, donc ils sont contactés.
Des petites soirées blogueurs.
Des petites soirées blogueurs organisées par la DGSE.
C'est sympa.
Non, mais ils t'invitent effectivement dans leurs locaux, ils te montrent qu'ils ont un dossier, puis ils discutent en disant peut-être que tu pourrais nous aider, si t'as des infos, tu pourrais nous en parler, etc.
Non, mais enfin, la collecte d'informations pour moi, elle a toujours existé. Le vrai critère de différenciation, c'est le traitement de l'information.
Mm-hmm.
C'est ça qui... récolter les données de tout le monde ici dans cette pièce, c'est super cool, et après on fait quoi? Donc ce qui compte, c'est les algorithmes qui permettent de retracer les gens, de faire des liens entre eux, de comprendre ce qu'ils font, où ils vont, quelles sont leurs intentions, etc. Et ça, c'est infiniment plus complexe. Donc finalement, moi, qu'on récolte mes données, quand à chaque fois que je badge avec mon pass Navigo pour prendre le métro, j'en ai rien à foutre, en fait. C'est pas...
Oui. Ça touche pas spécialement.
Bah, on s'en tape en fait, parce qu'on est tous surveillés effectivement. Et là-dessus, je rejoins l'avis du jeune homme.
D'accord. Bon, en fait, la surveillance internet, on en rigolait, mais en fait, d'une certaine manière, elle existe déjà. Alors, mademoiselle, on va finir dessus.
Allez, encore une fois.
Vous êtes chaud. Bah, allez, on s'en fout, on est freestyle, on est au tank. Puis on ira danser après tous ensemble. Bonsoir, mademoiselle.
C'est mes parents qui ont peur d'Anonymous.
Ah, c'est vous qui avez eu la petite question. Donc, eux, alors, ils sont complètement flippés d'Anonymous.
Ouais, non, enfin, c'est pas ça. C'est juste qu'en fait, ils ont découvert tout ça il y a pas longtemps et ils m'ont appelé. Ils m'ont dit, alors, toi qui es connecté, est-ce que tu connais. Bref, Anonymous.
Ah, donc là, on est vraiment dans les raccourcis dans tous les sens aussi.
Voilà. Non, en fait, moi, j'avais une remarque qui est que, effectivement, la protection et. La surveillance sur Internet, c'est un truc qui. Peu à peu va arriver de façon très maladroite, etc. Notamment, excusez-moi, ça va être un peu chiant, mais on est en train de voter plein de lois là-dessus.
Oui.
Mais on vote que des lois, entre guillemets, pour surveiller les gens. Les lois pour les protéger, on ne veut pas les voter. C'est-à-dire que, par exemple, en 2005, promis, je vais vite.
Non,
en 2005, on s'est dit, l'environnement, c'est bien, on va mettre ça dans la Constitution. Par contre, quand en 2008, des mecs sont allés voir les mêmes gens qui décident, leur ont dit, ça serait bien, au même titre que l'environnement, de mettre la protection des données personnelles.
Ouais.
Là, la France a répondu, non, c'est pas un truc assez important. L'environnement, c'est important, la protection des données personnelles, ça l'est pas. Donc, on se dépêche de faire voter plein de trucs qui marchent pas très très bien, genre Hadopi, genre la loi de programmation militaire.
Genre la loi de programmation militaire.
C'est le Patriot Act français. C'est
ah oui, c'est le fameux dont on parle beaucoup.
C'est terrifiant. Il faut le lire, c'est terrifiant. Par contre, quand on veut faire, il y a une grande loi numérique qui est annoncée depuis très longtemps, qui normalement devrait arriver en 2015. Eh ben ça traîne. Ça, on veut pas le faire. Ça, on veut pas prendre les mesures. Voilà. Donc c'est curieux de voir que pour le vote des lois, on est d'accord pour faire des lois pour surveiller les méchants et pour pour augmenter la répression, mais quand il s'agit de protéger les données personnelles des gens. Ça, on ne veut pas. Ça, d'accord. C'est compliqué. Ça, on considère que ce n'est pas important.
Donc, selon vous, en fait, c'est cette surveillance d'Internet, c'est une sorte d'hypocrisie pour, en fait, augmenter les pouvoirs des autorités sur,
je sais pas,
sur les activités des
mais
gens.
En tout cas, j'ai l'impression qu'on considère que lutter contre le piratage des films, c'est important, mais protéger les données personnelles des gens, ça ne l'est pas.
Ah, intéressant.
Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça, pour que ça devienne important à notre échelle?
À part signer
des pétitions.
À devenir ministre.
Signer des pétitions sur change.org.
T'es devenu cynique, Sylvain, pour un mec qui était pour la réconciliation.
Le directeur de change.org
d'accord.
Est ici.
C'est très intéressant. Mais je pense que ça va lancer un nouveau débat et qu'on n'aura pas trop de temps. Mais c'est quand même intéressant du coup, de se rendre compte qu'effectivement, il y a une forme d'hypocrisie et qu'on ne protège pas spécialement les gens, en fait. Mais on cherche plutôt à blinder les.
L'arsenal
législatif et sécuritaire d'une certaine manière.
Il y avait une dernière question.
Bon, une dernière parce qu'on est plus à, on est plus à ça près.
Il y a des gens qui sont quand même.
Je pense que
bonsoir.
Je pense effectivement qu'il y a de l'hypocrisie, mais c'est pas vraiment, c'est plus de la démagogie.
D'accord.
Des élus, parce qu'en fait, il leur faut des voix, il faut qu'ils aient une bonne image.
Donc pour vous, on reste dans le discours sécuritaire et démagogue.
Ils vont utiliser des choses qui sont un peu faciles. Et donc, le premier truc qu'on pouvait trouver après l'attaque de Charlie Hebdo, c'était Internet. C'est facile. Internet, on va le surveiller. Et en plus, le problème aussi, c'est que finalement, dans la surveillance, il y a 2 degrés. Et ils n'en parlent pas. Il y a le degré, effectivement, qu'eux, ils veulent instaurer avec tout ce qui est Patriot Act, qui est plus lié aux données privées.
D'accord.
Et on oublie aussi tout ce qui est données publiques, qui, en fait, finalement, contient énormément d'informations. Et d'ailleurs, justement, quand on commence à rentrer dans la collecte de données, il faut aussi la traiter. Et le traitement, effectivement... Apparemment, c'est pas encore leur fort.
Ouais.
Déjà, la NSA apparemment aurait la même efficacité que la Poste à ce niveau-là.
Galère un peu. Ouais.
Et donc,
c'est-à-dire qu'ils ne voient pas tes données.
Voilà. Donc finalement, en fait, les vraies données qu'on va obtenir sur tous ces problèmes-là, elles sont pas sur Internet. Elles sont vraiment sur le terrain. Avec les prisons, avec la radicalisation en fait qu'on a entendu à la télé, c'était justement pas sur Internet, c'était dans une mosquée.
Oui.
Il y a des liens avec Internet, avec le complotisme, tout ça, mais finalement c'est pas sur Internet qu'ils ont formé leur.
D'accord. Donc là, tu rejoins un peu Mélissa en disant que Internet n'est pas spécialement un terreau, c'est juste un moyen de communication comme un autre.
Voilà, et c'est utilisé de façon démagogue pour faire des voix.
On va avoir des problèmes, on a attaqué beaucoup d'élus ce soir.
On va être interdit d'émission.
Bon, merci beaucoup en tout cas. Je pense qu'un peu comme dans Lost, on a ouvert plus de questions qu'on a répondu à des mystères. Mais en tout cas, c'était très intéressant et on va attaquer la troisième fac.
FAQ.
Et bien, du coup, j'avais une question sur justement les VPN, tout ça, mais c'était beaucoup, beaucoup plus léger. Alors, je vais essayer de vous la retrouver. Alors, Hugo, il est où Hugo ? Bonsoir Hugo. Alors, le micro est juste là sur la table basse.
Ouais, mais j'arrive un petit peu après quelque chose de très sérieux.
Ouais, ça va faire un peu léger, mais c'est pas grave.
Ça va faire un peu léger, mais c'est bien.
Faut rigoler parce que là, bon.
Alors, la semaine dernière, il y a Fox News qui a, toujours dans son excellence journalistique,
la réconciliation avec les grands médias dans Fox News,
a posté une carte des no-go zones à Paris qui a, bon, peut-être eu l'effet indésiré de m'aider dans mes recherches immobilières. Au moins, à cerner le périmètre. Mais juste une question, vous, j'imagine que vous regardez des programmes télé qui viennent de l'étranger. Et si oui, lesquels vous nous conseillez? Et est-ce qu'il faut un VPN pour contourner l'accès limité?
Ah voilà, on revient à des questions vraies quand même, des choses de la vraie vie là du coup. Quel genre de programme que vous regardez qui demande un petit VPN pour tricher justement, pour crypter tout ça? Est-ce que vous regardez sur internet des émissions qui ne sont pas diffusées en France? Daz, y a un truc ou pas?
Non, depuis que la TNT est arrivée, j'ai plus besoin. Je me bute à RMC 24, moi, il y a Top Gear dessus, donc je regarde que ça.
T'as tellement de chance, je l'ai pas, moi.
T'as pas RMC 24? J'ai pas RMC. La meilleure chaîne du monde.
Oui, avec des documentaires scientifiques, c'est formidable.
Oui, aussi, vite fait, mais il y a
les
Top
aliens,
Gear.
Les aliens. Non, j'ai envie de voir ça aussi.
Mélissa, est-ce que tu utilises des petits VPN pour tricher et aller regarder des choses à l'étranger?
Je regarde des séries sur Hulu.
Hulu?
Hulu. Hulu. Moi, d'accord. Je dis Hulu.
D'accord. Avec un petit VPN aussi?
Ouais.
D'accord.
Mais pourquoi? Non, mais pourquoi en fait?
Parce qu'il y a tout en fait. C'est à dispo. Je ne télécharge pas, je te l'ai déjà dit, Daz.
Oui, bah tu pirates quand même. Enfin.
J'ai un petit VPN, je regarde des trucs avec des pubs aux États-Unis.
Mais tu payes ton abonnement?
Tu payes ton abonnement à Hulu, à Hulu.
Oui.
Mais en Amérique.
Ah, mais en Amérique.
Ah, et la TVA, tu la payes ou pas la TVA?
Ah là
là. Je paye tout.
C'est pas
je
du pirate,
je donne de l'argent.
C'est du corsaire, on va dire.
Ouais, c'est du corsaire. Ouais.
Semi-justice.
C'est, voilà.
Fibre, est-ce que. Oui, bah tu nous l'as dit du coup. Tu...
Quoi?
Non.
Ah non, moi, il fut un temps, j'ai essayé de m'y mettre pour écouter Pandora, qui était interdit en France.
Qui était une radio américaine qui est vachement bien.
Voilà, qui a marché en France 15 jours le temps qu'on s'aperçoive que ce soit illégal pour une raison qui m'échappe. Et donc, juste pour dire ce que c'est que Pandora, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une radio qui analyse les chansons que vous écoutez et qui vous en propose d'autres absolument inconnues sur la base des rythmes, des tonalités, des instruments. Et donc, effectivement, on découvre parfois des choses très intéressantes qu'on n'aurait jamais soupçonnées. Ce n'est pas autorisé en France. Peut-être que ça l'est aujourd'hui, mais en tout cas, j'ai essayé à l'époque. Et voilà.
Très bien. Pandora pour Fibre. Et toi, Sylvain?
Avant que Netflix arrive en France, je faisais comme Mélissa. J'ai payé un abonnement pendant quelques mois à Netflix.
Ah, c'était sur Netflix avant que ce soit cool, c'est ça?
Voilà, exactement. Et après, je me suis dit que j'allais continuer à pirater quand même. Que
ça, on est d'accord que l'offre de Netflix, elle est un peu merdique.
En France, ouais.
En France, oui.
Ok, très bien.
Ouais.
Ouais, mais donc du coup,
la solution c'est Netflix en VPN.
Ouais, ouais, ça justifie le VPN.
Netflix
ouais.
US en VPN. Ouais. Là, si on est prêt à payer pour du contenu.
Pas comme toi Sylvain.
Comme nous le faisons tous.
Il faut mieux passer par VPN pour s'abonner à Netflix US.
Voilà, et puis penser à payer la TVA. Allez, on attaque la dernière chronique.
Sujet numéro 4.
Arrêtons la dictature des écrans de chargement.
Oh, il va taper du poing sur la table, Fibre. Il est pas content.
Non, une chronique très très sereine.
C'est vrai? Alors,
sur la soumission.
N'oublie pas les gens.
Une chronique sereine sur la soumission. Eh bien, c'est parti, Fibre en mode BDSM. Alors.
Bonjour, amis adeptes de la soumission. Mon nom est Fibre Tigre. Laissez-moi vous poser une simple question. Avez-vous ces dernières années plus souvent regardé un écran allumé avec des informations ou un écran inactif? Oui, parce que quand vous installez un programme, quand vous lancez un logiciel, quand vous appuyez sur l'icône Facebook de votre smartphone et que ce petit enfoiré met 15 longues secondes à se synchroniser pour vous dire que vous avez zéro notification parce que nobody cares de votre petite vie minable, vous n'avez pas l'impression justement d'avoir une vie minable passée à attendre qu'un écran se charge?
Reviens vers nous, Fibre, reviens vers nous.
On est passé d'un Super Mario sur NES qui se charge en 0 seconde à Assassin's Creed Unity sur Xbox One qui demande 5 minutes entre l'allumage de la console et la possibilité de bouger son personnage. Vous avez lancé Word récemment? J'ai l'impression qu'il absorbe la vie autour de mon ordinateur pendant 3 minutes pour générer suffisamment de puissance pour lancer un truc dont le lancement était automatique en l'an 2000.
Ouais.
Votre vous-même de 1995 serait en colère de vous voir ainsi accepter cette situation insupportable. Il dirait « Bouh !» Il refuserait de grandir. Et pourtant, on s'est adapté. Je veux dire, nous les humains, on a capitulé. On s'est soumis.
À la machine.
On s'est soumis au loading, au chargement, à la synchro, à l'attente. Déjà, en 2000, prémisse de la soumission, on avait dans les grands médias, la télé, une petite esthétique de la barre de chargement.
C'est vrai.
On voyait fleurir ça dans les habillages TV. Ça met longtemps à charger, mais c'est cool. Et puis, quand vous êtes déprimé, que vous n'avez rien fait dans votre vie minable, au moins, à la fin de la journée, vous avez la satisfaction d'avoir rempli des tas de barres de chargement. Mais vous savez pourquoi on s'est adapté? Parce qu'on s'est laissé aller à du multitâche paresseux, en boucle.
Du multitâche paresseux, c'est quoi?
Alors, vous êtes assis sur votre canapé, GTA 5 se charge, donc ça met vraiment 3 plombes. Donc vous lancez Facebook sur votre mobile qui met justement, c'est 15 minutes, mais c'est plutôt, c'est à 15 secondes, c'est plutôt une minute. Donc comme vous avez rien à faire dans ce temps-là, vous lancez Inbox et Daz vous envoyez un PDF de 6 mégas. Donc vous êtes en... Et puis tout d'un coup, vous êtes sur le canapé, vous dites, mais j'étais en train de faire quoi déjà? Et en boucle, vous avez fait que lancer des logiciels sans en profiter.
D'accord.
Bon, c'est un peu caricatural, mais
un peu, ouais.
Ces mini-boucles, elles existent dans la journée, elles ne sont pas anodines. Donc, moi, je ne suis pas un homme sans solution.
Fibre Tigre 2017, on vous le rappelle.
Et voilà, et je suis là pour vous apporter des solutions. Solution 1, la colère. Ouais, énervez-vous, pétez les plombs, cassez tout. Votre Xbox met 3 minutes à se lancer et à synchroniser avec du contenu OSEF. Balancez-la par la fenêtre, allez en Afrique et giflez Bill Gates. Solution 2, rentabiliser.
Est-ce qu'elle est plus simple que la solution 1 parce que c'est compliqué.
Oui, enfin, elle est fictive, bien sûr. Rentabiliser le temps perdu. Comme on est obligé de se taper un écran de chargement d'attente, pourquoi ne pas avoir du contenu sympa, rapide, affiché entre-temps ? Je vous parle pas de la phrase de mauviette de Windows, ah, je règle quelques petites affaires et je reviens, parce que là aussi c'est OSEF. Mais par exemple, un jeu.
Ouais.
Alors vous allez me dire, les jeux c'est pas possible, parce que Okami a essayé de faire ça, mais en fait c'est un brevet qui appartient à Namco, ouais, qui va bientôt passer dans le domaine public, qui fait que Namco a le droit de mettre un jeu pendant le temps de chargement d'autres jeux.
Ça a été inventé du temps de Ridge Racer pour les, voilà, ceux qui ont vu la PlayStation.
Galaga.
Et on l'a pas vu d'ailleurs sur tous les jeux Namco, preuve, ouais, qu'il n'a pas exploité son brevet. En tout cas, il empêche théoriquement les autres de le faire.
Donc il empêche les gens de rendre le brevet plus utile ou plus actif.
Oui, voilà. Et donc en fait, le mini-jeu qu'il y avait sur Okami, qui a été rendu illégal sur l'adaptation sur Wii, n'existe pas. Bon, c'est détail.
Oui.
Voilà. Donc, il y a aussi un problème, c'est que si on met un mini-jeu pendant les temps de chargement d'Assassin's Creed, le mini-jeu risque d'être meilleur que le jeu. Donc,
coucou Ubisoft, voilà, coucou BFM TV.
Voilà. Voilà. Mais pourquoi pas du contenu ? Bon, par exemple, je prends deux jeux, Batman, Deus Ex, il y en a d'autres, qui proposent un résumé des aventures précédentes.
D'accord, donc comment ça occupe ?
Voilà. Il y a aussi parfois des mini-tutoriels dans le dernier Dragon's Age, je crois. Et il y a Dragon's Dogma qui proposait d'enrichir votre culture G, entre guillemets, avec des citations mal traduites par des Japonais de Victor Hugo. C'était assez folklore, mais bon, vous apprenez à la fois un peu de Victor Hugo et à la fois sur la traduction japonaise.
Framponnet.fr pour les amateurs,
oui, voilà,
de
c'est ça. Solution 3,
ouais,
secouer Sylvain Palais comme un prunier pour voir si sa tête fait un bruit de grelot. Bon, voilà. Sylvain, je t'interpelle. La majorité de l'humanité connectée passe la majorité de son temps devant des écrans vides d'infos en attendant qu'ils se remplissent. Et tu n'as rien à nous proposer ? Mais enfin, il y a tellement d'espace pub à exploiter que les jeux pourraient être vendus 6 fois moins cher.
On les vendrait le même prix, je te rassure.
Ou encore mieux, tu retournes voir Bill Gates, que je viens de gifler, et tu lui dis que son contenu de pub OSEF qui fait que la Xbox elle se charge lentement, il a qu'à les mettre dans les jeux, comme ça la Xbox se charge rapidement, on n'attend rien. Ouais, et tu le gifles à nouveau. Alors, ok, les hashtags philosophes vont vous dire que le temps perdu n'est jamais perdu, et que de toute façon nous mourrons, et que tout est ultimement vain. Eh bien, croyez l'avis du vieil homme que je suis, ce n'est pas en fixant une barre de chargement que vous la ferez grandir.
Ah, wow. On peut applaudir Fibre. La colère sereine, la colère saine, c'était, oui, celle de Ségolène Royal en 2007, on a la colère sereine de Fibre, oui, en 2015.
Oui.
Donc, fuck it, les temps de chargement, les petites roues de synchronisation quand tu tires sur ton téléphone pour faire apparaître des infos, des choses comme ça.
Avez-vous remarqué que personne ne se plaint ?
C'est vrai. Et donc, c'est pour ça qu'on est tu penses qu'on est tous des soumis ?
Ah non, mais à un moment, il faut faire jouer son droit de consommateur, 60 millions de consommateurs, et dire, mais je veux pas de ce type de produit quand même.
D'accord.
Par quelle
gratuit,
déviance,
hein. Gratuit le produit.
Par,
bon.
Par quelle déviance culturelle on s'est mis à accepter des temps de chargement ? C'est incroyable.
Sylvain. Déjà, quand tu dis que Facebook met 15 secondes à se charger, passe à la fibre. Oh. Je sais pas, mais déjà 15 secondes, c'est pas long.
Je parle pas sur navigateur, je parle sur smartphone.
Ouais, bah t'as un smartphone.
C'est vrai que des fois c'est long.
Mais c'est plus 5 secondes que 15 secondes. Et si tu commences à péter des câbles parce que les choses mettent 5 secondes à se charger, je te rappelle qu'il y a 15 ans, quand on n'avait pas d'ADSL, naviguer sur internet, on prenait une bonne minute pour charger un site web compliqué. Donc moi je trouve que t'es un petit peu gourmand, t'es un petit peu un enfant gâté.
Donc voilà. Pour Sylvain, t'es un enfant gâté. C'est un enfant gâté. Daz.
Oui. Pour la conclusion de Fibre est un peu légère parce que tout le monde sait que.
Quoi, il a invoqué des philosophes, il a invoqué la vie, la mort, tout ça.
Pour faire avancer une barre de chargement, il suffit de tourner la télé. En fait, tout le monde le sait que c'est la gravité qui fait suffit dans le
téléchargement. Bon, quand tu l'as regardé, c'est ça, non, ça a plu.
Non, ça c'est de la connerie. Ah bon. faut renverser la télé. Oui, non, je suis d'accord avec Fibre. Il y a plein de trucs qu'on a acceptés, à commencer par la publicité, en fait.
C'est vrai.
Ouais. Et c'est vrai que les temps de chargement. Moi, Facebook, sincèrement, ça me dérange pas parce que le temps de chargement de Facebook, c'est peut-être le seul truc un peu neutre, tu vois. Et après, tu ouvres un tombereau de merde, en fait. C'est-à-dire que le temps de chargement, c'est la porte qui est jolie.
sur une décharge, tu vois. Donc profite de la porte, aime-la, voilà.
Donc après, c'est l'inverse, c'est le programme entre des énormes tunnels de pub,
ouais,
en fait.
Ouais, en fait, c'est les seuls moments de calme avant d'arriver dans des trucs où tu vas, t'as là, mec, qu'est-ce qu'il raconte. Et enfin, pour moi, sur Internet, c'est pas trop grave sur les sites, même s'ils sont super lourds, vive le flash, etc. Moi, c'est vraiment les jeux où là, je rejoins complètement ton avis, surtout sur PlayStation, c'était l'enfer. On la lançait, elle se remettait à jour depuis la veille. Ensuite, le jeu lui se mettait à jour aussi. Après, il chargeait, donc GTA, effectivement, c'est vrai. Franchement, t'as parlé de 5 minutes sur Assassin's Creed. GTA, c'est bien 12 minutes à rien foutre.
Ouais.
En attendant que le jeu daigne se lancer pour de vrai. Et pareil sur Elite Dangerous, les gars, hein, parce que bon.
Ouais.
On se le dit quand même, le petit vaisseau qui tourne là en orange sur fond noir pendant 20 plombes. Hein.
On pourrait au moins le tourner dans tous les sens pour le regarder sous toutes ses coutures.
Et il n'y a pas de barre de chargement en plus. Il n'y
a pas de barre.
C'est ça, la vraie insulte, c'est ça, c'est qu'il n'y a plus de barre de chargement. Maintenant, on dit juste chargement.
Est-ce que sur PC, techniquement, on ne peut pas réduire ses temps de chargement? Est-ce qu'en passant, je ne sais pas, sur un SSD, en mettant plus de RAM, en améliorant sa carte graphique,
etc. On peut le faire tout simplement en le mettant en priorité dans le développement et en disant notre problème. C'est ce que faisait Steve Jobs quand il a créé l'Apple II. Il a dit à son associé, il a dit, moi, je veux que l'Apple II, il se boot en 5 secondes ou moins. Sinon, on le fait pas. Et ils avaient le sens des priorités à l'époque, on va dire.
Ouais. Mais ça, toi, tu t'en fous ou quand tu vois, genre, quand tu bootes ton MacBook, etc., ça te dérange pas trop d'attendre ou tu
c'est la dictature du temps de chargement, parce qu'en fait, là, avec mon iPhone 4, justement, qui ne marche plus, enfin, ou presque plus, quand je charge Spotify, par exemple, il crache deux fois, et quand il charge, il met 15 secondes à charger parce que j'ai plus de place ou que le système d'exploitation, je peux pas le mettre à jour, donc.
Et est-ce que comme dit Fibre, est-ce que c'est.
C'est l'obsolescence même, voilà, en fait, le temps de chargement.
Est-ce que ça te met en colère ou est-ce que, comme dit Fibre, on a accepté d'attendre alors qu'on devrait pas accepter?
Non, parce que je suis vénère. Ah, encore 6 ans après, tu vois.
Ah, d'accord.
Enfin, depuis que j'ai un smartphone, et donc je me suis dit, je m'y suis pas du tout fait. Et d'accord. En fait, quand tu as un iPhone 6, ce qui n'est pas mon cas, tout d'un coup, tu n'attends plus.
Je me sens un peu
amer bizarrement.
Depuis le début de l'émission, quand même.
Tu penses que c'est un complot?
On en fait, c'est complots. Un problème de
que les mises à jour d'Apple, en fait, ça rend les anciens téléphones plus lents.
C'est l'obsolescence même, en fait. Parce que moi, du coup, je peux pas faire ma mise à jour, et souvent, ton téléphone, il crache avec des applis, quoi.
Est-ce que ce que propose Fibre, qui est d'occuper les écrans qui ne servent à rien, c'est une bonne idée selon vous? Mettre jeux, des citations Wikipédia, des choses.
Mais
qui...
ça sera lourd aussi, du coup, c'est pas.
Sur l'histoire, non, sur l'histoire, je suis d'accord. Sur le background du jeu, c'est cool. Après, un mini-jeu dans le jeu, moi, sincèrement, enfin, Ridge Racer, je l'ai lancé un milliard de fois. Galaga, j'allais me lever, j'allais chercher autre chose pendant que Galaga était à l'écran. J'en ai rien à foutre de Galaga, je veux jouer à Ridge Racer, moi.
Alors, en fait, j'ai cité Okami, c'est pas bizarrement, c'est que, en fait, il y avait un mini-jeu qui augmentait, c'est un RPG qui augmentait tes stats pendant le vrai jeu. Si tu réussissais le
mini-jeu. D'accord, ok. Ouais.
Donc c'était.
Un jeu lié un petit peu quand même.
Bah, c'est une super idée.
C'est une super idée.
Attendez-vous à voir ça dans les prochains titres de.
Toi, Sylvain, tu mettrais des pubs ou je pense que ça fera encore plus chier les gens?
Non, parce que dans des médias comme. Des produits culturels comme le jeu vidéo, il faut que les pubs soient intelligentes. C'est genre.
On a vu des pubs dans le jeu en fait.
Ouais, voilà. C'est genre les panneaux d'affichage dans GTA qui peuvent changer d'une semaine à l'autre parce que les annonceurs payent, etc. Mais de la pub sur le temps de chargement, je vois pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt pour du jeu vidéo. Mais effectivement, des citations Wikipédia, des choses comme ça, c'est marrant, ça c'est intéressant.
Donc pour vous, il faut qu'on soit dans un tunnel d'activité, d'apprentissage. Il faut que tout soit rentabilisé quand on est devant un écran. Daz, à un moment, disait un truc intéressant, c'est qu'à un moment, effectivement, t'as peut-être un petit moment de plénitude entre deux tunnels de contenu, de réaction, de médias, d'images, de sons.
Le vaisseau orange, les gars, le vaisseau orange. Avant c'est votre trip orange. À 300 années-lumière.
Dans Elite Dangerous. Ouais, peut-être.
Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le public qui a quelque chose à dire là-dessus? Oui. Bonsoir.
Bonsoir Bruno.
Bonsoir Bruno.
Je suis vachement surpris parce que moi je fais partie de la génération A ou B. Là il y a la génération Z qui est en pleine salle.
Y.
Oh non, le zapper Z.
Z. Ok, Z. On va dire Z. Alors.
Et justement, c'est ça le point. C'est que je croyais que vous étiez tous super multitâches et que donc pendant ce temps-là, vous allez vous servir une bière ou alors vous allez poster un truc intelligent sur un endroit où vous allez défendre la liberté retrouvée ou le besoin de mieux répartir les richesses ou je sais pas quoi. Ouais. Et en fait, non, vous êtes super addict. Putain, il faut que ça charge le métier d'engin. Et ça me tue. Moi, je vais me servir un bon verre de vin. Je vais me couper un morceau de clacos et puis quand je reviens, c'est bon, le bousin il est chargé.
Ah d'accord. Très bien, très bonne idée.
Donc il y a pas de tunnel.
La question de l'optimisation.
Il y a pas de tunnel, il y a des multivers.
Est très intéressante, c'est que.
Ah, d'accord. Donc vous êtes multitâche d'une certaine manière.
Effectivement, que quand tu charges une série,
oui.
Tu veux manger devant ta série. tu vas lancer le torrent ou le Netflix ou ce que vous voulez.
Le torrent que t'as avec la TVA.
Popcorn
avec
Time.
Avec la TVA,
Popcorn
bien sûr.
Time. Et tu vas aller effectivement te préparer ta planche de charcutes ou te faire tes pâtes pendant que le film charge et t'optimises parce que t'arrives devant ton écran pile au moment où ça commence et c'est parfait. Effectivement.
Mais non, mais est-ce que c'est trop ambitieux de vouloir de jouer à un jeu quand on veut jouer à un jeu?
C'est vrai, voilà, ça fait sens. Ça. Monsieur, alors on a un deuxième monsieur qui a une réaction aussi.
Bonsoir.
Bonsoir.
Je voulais faire le lien avec le Noël, en fait, bizarrement.
Alors,
il y a deux types de familles. Il y a ceux qui disent on fait les cadeaux à minuit, et il y a ceux qui disent on fait cadeau le lendemain matin. Ceux qui ont les cadeaux à minuit, ils sont très contents, ils passent la nuit avec, ils dorment pas, mais ils ont les cadeaux.
Et ceux qui ont le lendemain matin, ils dorment pas non plus. Hein, ça,
mais ils attendent. Ouais, il y a ce phénomène d'attente qui est super agréable.
Hein,
et c'est un truc qu'on oublie. Quand on joue à Assassin's Creed, quand on attend 5 minutes pour,
Creed,
pour attendre le jeu.
C'est le Noël le lendemain matin, c'est ça?
Bah, exactement, on a ce phénomène
c'est
d'attente.
3 jours après, je crois.
Et quand on y arrive, bah, on est super heureux. Et c'est un truc qu'on oublie juste d'attendre un petit peu
d'accord.
pour être vraiment heureux à la fin.
Donc vous êtes plus dans la mise en appétit qui compte autant que le repas d'une certaine
exactement.
Manière.
Exactement, c'est ça.
D'accord.
Ouais, c'est la solution.
En fait, tout revient à la bouffe en fait. Faut attendre
c'est un petit peu comme attendre une semaine à l'autre d'avoir le deuxième épisode de la série ou alors de mater tout en binge-watching.
Binge-watching contre semaine par semaine parce que c'est génial quand même.
Ah, avis intéressant. Donc il y a une sorte de qualité de l'attente d'une certaine
manière. Exactement. Je suis pas d'accord.
Fibre, tu
n'es
pas d'accord
avec monsieur. On peut pas du tout comparer le fait d'avoir un épisode chaque semaine qui est, on va dire, une façon de mettre en scène la narration et le fait de... Tu veux jouer à un jeu et parce que le jeu est mal fait techniquement, tu dois attendre une minute. Ça n'a rien à voir. Il y a quelque chose qui est pensé pour que ce soit bien, il y a quelque chose qui est mal pensé et c'est mauvais. Je veux dire, c'est pas du tout comparable.
D'accord, c'est pas comme
moi. L'accepter, l'intellectualiser comme ça en disant mais attendez, c'est comme Noël. Non, c'est qu'on est complètement soumis et qu'on l'accepte et que ça va être 15 minutes l'année prochaine.
Non, le vrai scandale là-dessus, ça reste pour moi les barres de chargement qui se chargent plus quoi.
Ah oui, alors
quand tu installes Windows 8, ouais, mais tu as un truc qui ressemble à la barre de chargement quand tu transfères un fichier d'un répertoire à un autre, tu as une barre.
Oui.
Puis arrivé au bout en fait, elle repart à zéro et puis ça fait le scanner de K2000 en fait. Alors qu'à une époque quand elle arrivait au bout, ça sous-entendait que la tâche était terminée et tu pouvais
Ah mais là c'est du troll, là. C'est ton OS qui te troll le Daz.
Ah c'est ça.
Oui, c'était ça.
Ah d'accord.
OK, très bien. Eh bien merci beaucoup en tout cas pour cette chronique. On peut applaudir monsieur Fibre. Et on attaque une dernière question d'une personne publique avant d'attaquer la toute dernière partie où vous allez poser des questions publiques. J'espère que vous serez réactifs. Une question. Ah, c'est intéressant, c'est encore Pierre-Jean. Bon, allez, Pierre-Jean, tu peux revenir du coup. Il est où Pierre-Jean?
Bah écoute, assieds-toi ici en fait.
Ouais, bah oui, assieds-toi à la table.
Il va voler la fac de quelqu'un d'autre.
On devrait avoir un jiggle Pierre-Jean en fait. Allez, une petite FAQ.
FAQ.
Donc Pierre-Jean sur les imprimantes 3D.
Ouais, sur les imprimantes 3D, en fait, c'était après la chronique sur l'attachement qu'on apporte aux objets. Est-ce que justement l'imprimante 3D va pas amener justement un nouveau mode de consommation, un nouveau modèle économique et donc un nouveau modèle culturel aussi, parce qu'on aura un tout autre rapport avec l'objet.
C'est vrai que là, on peut et construire après, ou jeter à l'envi un objet. Il y a même des maisons qui ont été créées. Alors,
ça, ça pour moi, c'est enfin. Le but de tout ce qui est moyen de fabrication, c'est de se les approprier pour pouvoir les revendre à quelqu'un. Donc ton modèle à toi que tu évoques, je suis le premier à bien vouloir y croire en fait, mais c'est comme s'asseoir dans un parc avec un djembé, faire du diabolo, jongler, cracher du feu, tu vois, c'est un truc de bab quoi. Non, mais...
donc pour toi, il a une vision un peu.
Mais ça c'est la vision utopique où l'objet ne mourra jamais, on pourra l'auto-régénérer nous-mêmes, etc. C'est super et j'ai vraiment envie d'y croire, mais je sais que ça sera jamais le cas.
Ah non, mais j'ai pas dit ça, c'est juste imagine genre, t'as des potes à dîner un soir et genre tout d'un coup tu pètes un verre. Bah tu fais, oh putain, j'ai plus assez de verre, bah non, t'en réimprimes un, genre tu t'en fous. C'est juste que.
Okay.
Ce qui va compter au final, c'est plus genre tu vas acheter des verres par paquet de 10, tu vas juste acheter la matière et au final, ce que tu vas acheter, c'est quoi? C'est les plans? C'est genre comment? Voilà.
Mais j'adorerais ça, là, mais je pense que ça arrivera jamais en fait.
D'accord.
Ah, okay, bah.
Mélissa, est-ce que tu vois, alors dans l'imprimante 3D, un truc qui va vraiment changer beaucoup, beaucoup de choses dans ton rapport.
Aux architectes.
Mais les gens sont quand même hyper flemmards. Donc là, l'exemple qu'il a donné, genre tu vas plus aller acheter des verres, tu vas les faire, donc tu vas attendre que le verre se fasse, ça doit prendre quoi, je sais pas combien.
Alors, on revient à la chronique du lac de temps de chargement là.
Encore 3 heures de.
Alors, on va faire une boucle là, faut qu'on en sorte.
J'ai un dîner ce soir, je veux 10 verres, donc je passe ma journée à faire des verres alors qu'il faut déjà que je prépare mon repas. Donc non, en fait, les gens sont des gros flemmards, à moins que je pense qu'on fera, mais vraiment très très ponctuellement.
D'accord, donc pour toi l'imprimante 3D c'est quelque chose qui n'est pas ponctuel, enfin qui est ponctuel justement et qui ne va pas rentrer dans une sorte de routine en fait.
Mais je vois pas pourquoi on pourrait le faire, enfin pourquoi on voudrait avoir envie de faire quelque chose, c'est comme la bouffe quoi, enfin je... On va pas faire, tu vois, pousser des patates. Bah là, c'est un peu ça, tu vois. C'est genre.
Il y a des gens qui font pousser leurs patates.
Oui, mais enfin, ici, personne. Donc.
Si, voilà, il y a des gens qui font pousser leurs patates dans le public. Fibre.
Est-ce que vous vous souvenez en 2010 quand tout le monde dansait comme des schtroumpfs en disant ouais, l'imprimante 3D, ça va révolutionner le monde, blablabla, blablabla.
Tu ne crois pas à l'imprimante 3D, c'est
non, mais j'y croyais pas à l'époque, j'ai bien ouais. eu raison. Parce qu'aujourd'hui, c'est peanuts.
Ils viennent d'imprimer des maisons en Chine
ouais,
et tout.
Ouais, ils impriment des maisons. Bah écoutez, bonne chance pour les tremblements de terre. Et imprimer, enfin, c'est le business de l'impression 3D est assez anecdotique.
Oui.
Voilà, il représente pas beaucoup de choses et pas beaucoup d'argent pour l'instant.
Aujourd'hui.
Et pff,
mais voilà, ce sera pas dans 5 ans. Pour moi, c'est dans 30 ans qu'on verra la différence.
D'accord.
Ouais.
Sylvain.
Ouais, bon, déjà, on peut pas imprimer du verre pour l'instant, donc ça veut dire que les mecs vont boire dans des gobelets en plastique.
On peut imprimer de plus en plus de choses, non ? J'ai vu que ça se
travaille. Ouais, mais du verre,
sur
c'est
du
pas
métal,
possible.
De l'alu.
Et puis après, je sais pas, l'exemple du verre, c'est un peu différent parce que. Enfin. Vous êtes attaché à votre vaisselle ?
Bah, il y a des gens
de la même façon qu'on est attaché à nos smartphones.
Tout le temps.
Sauf si on a payé, je sais pas, des verres à whisky super chers, soufflés voilà. à la main, etc. À ce moment-là, le mec pète mon verre, je lui casse la gueule, je pense, avant d'en imprimer un. Mais effectivement. Ça me fait chier, mais je rejoins un peu Daz sur le côté. L'imprimante 3D est une L'imprimante 3D est une révolution. Bah, effectivement, on attend encore. C'est vraiment spécifique pour des tâches. Genre, ils s'en servent en médecine, ils s'en servent sur le front, ils s'en servent dans la station spatiale internationale. Mais pour l'instant, j'ai du mal à voir un usage domestique.
Ils font des bibelots aussi.
Oui. Mais ça vous fait pas ouais. rêver quand la NASA justement envoie des instructions à une navette qui imprime ses propres objets qui lui manquent
si,
sur.
Si, ça me fait rêver, mais nous, je sais pas en tant que particulier si ça nous servira un jour ce genre de.
D'accord. Donc 404 ne croit pas Mark Our Words comme diraient les anglais, on ne croit pas à l'impression 3D, on verra dans 5 ans bon, ouais, des réactions pas, c'est une FAQ, ça va très vite. Non, on va pas faire de réactions parce qu'on va attaquer la dernière partie qui sont vos FAQ à vous que vous allez
denied.
Adresser au public. Allez, jingle
FAQ.
Allez, c'est la dernière partie de l'émission et du coup, comme vous êtes avec nous et que vous avez fait le plaisir de nous rejoindre, cher public, merci beaucoup, et que vous résistez aux sirènes de la basse qui tape au premier étage du tank parce que c'est la fiesta,
surtout.
Et aux jeunes filles qui crient dans les coursives, vous allez pouvoir répondre aux questions que se posent nos chroniqueurs. Donc chacun d'entre vous, mes chers amis, vous allez poser une question. Et si le public veut répondre, vous allez juste à la table basse, vous prenez le micro. On va commencer par Mélissa.
Ouais.
Alors, Mélissa cherche ta question ou alors elle est en train de la tapoter.
Non, j'envoie des textos.
Ah, t'envoies des textos ?
Excuse-nous.
Alors... ça va.
Non, mais en fait, Mélissa, elle aime pas attendre. Donc,
je suis
tu
connectée,
vois,
les mecs.
Voilà.
Attendez,
elle aime pas attendre, donc les loadings. Alors, Mélissa.
Non, je voulais savoir, vous savez, mon obsession pour de savoir quel site les gens consultent.
Oui.
Donc, je voulais savoir le site le plus shame que les gens consultent, qui ne soit pas genre YouPorn, Facebook, enfin des trucs qu'on connaît vraiment. Genre, je veux apprendre des sites genre. Où les gens vont tout le temps et sur lesquels ils n'osent pas dire qu'ils vont.
Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un
qui osera,
qui va
s'il vous plaît,
oser de dire sur une émission qui peut être écoutée par l'État et les politiques, donner des informations privées
pour le bien d'Internet et de ma connaissance d'Internet, s'il
et
vous plaît,
enrichir nos listes de bookmarks. Alors, quel est le site addictif mais un peu honteux sur lequel vous aimez bien aller ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut bien répondre ?
Et là, personne. Putain, mais il y a rien sur Internet ?
Allez,
oh, c'est nul.
Monsieur, alors venez. Alors, on va le faire genre alcoolique anonyme. Tu peux dire bonsoir, je m'appelle machin et je vais sur machin.
Bonsoir, je m'appelle Kevin.
Bonsoir Kevin.
Bonsoir.
Alors, le site un peu honteux sur lequel on va souvent avec ma petite amie d'ailleurs, c'est.
Oula.
Ah non,
je vois des images qui défilent.
Ah non, alors. Non, c'est dilabs.com.
Dilabs.
Voilà.
Alors comment ça s'écrit ?
Alors Dil, D-E-A-L.
Ah, Dilabs.
Et
okay.
Labs comme un labo. Et en fait, c'est un site où il poste tous les jours les codes promo, les bonnes affaires, les bons plans.
Ah ouais, le truc avec des.
Voilà, mais il y a vraiment, des fois, il y a des trucs vraiment intéressant, genre après on se retrouve à acheter n'importe quoi, genre on a acheté de la pâte à modeler Play-Doh
parce que c'était moins cher.
Voilà, parce que ça coûtait 3 euros les 16 pots, et
on sait pas quoi faire.
Voilà, du coup,
on se parle plus.
On va souvent dessus, il y a des trucs sympas et après bon, c'est un peu. Voilà.
Mais c'est pas une honte, ça, c'est pas honteux.
C'est un peu crevard pour
ouais, le Play-Doh, c'est un peu dur. Ok, merci. Okay. Deal Labs, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a un petit site, un petit plaisir secret? Ah, je vois quelqu'un qui est mademoiselle.
En Australie peut-être.
Un petit site
même
bien.
C'est américain en fait. Moi oui. Je vais souvent voir TMZ.
Ah, c'est bien sale ça. Donc okay. TMZ c'est le tabloïd de référence sur Internet.
Trash en plus. Voilà, parce que alors jusqu'à il y a pas très longtemps j'avais un job très corporate, très sérieux, avec un costume où je vois les clients, etc. Et puis après quand je rentre des rendez-vous, je vais voir TMZ histoire de me laver un peu la tête en fait et de suivre ce que fait Kim Kardashian.
Qui va sortir un très très beau livre d'ailleurs, Kim Kardashian.
De
ok, TMZ, bien sale à souhait. Une dernière ou pas ? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Oui, monsieur.
Ouais, moi j'ai découvert récemment un site qui est vieux comme le web, mais apparemment qui m'a échappé pendant très longtemps, qui s'appelle Ouverture Facile.
C'est quoi Ouverture
Facile? Mais alors, apparemment c'est extrêmement vieux, c'est un site d'énigmes qui m'a fait extrêmement peur quand je l'ai découvert. Mais vraiment peur, genre un truc qui allait vous happer, parce que en fait ça vous prend un temps fou. En fait c'est un espèce d'énigme qui part d'une URL,
ouais.
Mais qui après vous fait recoller des images, et puis après vous fait partir dans Google, dans des recherches, où vous êtes le seul à avoir l'impression d'avoir fait cette énigme-là. Ben, je me suis arrêté au niveau 7 parce que j'ai eu vraiment très peur. Je pensais que j'allais partir dans un monde parallèle et que j'allais m'égarer pendant des années.
On a des dizaines et des dizaines. Hein.
Mais je sais, ça part pendant très très longtemps. Ouais. Mais ce site m'a fait vraiment très peur. Je me suis dit que c'était une sorte de secte.
C'est peut-être
crypto-djihadiste.
Hein. C'est souvent comme ça que les aliens font des tests pour voir si l'humain est assez intelligent pour qu'ils envahissent notre monde. Enfin bon, complotiste. Voilà. Complotiste.
Merci beaucoup
de regarder. Ok, ouverture facile.
Ouais, c'est super bien.
Bon, très bien. Bah, écoute, on a trois sites, un vieux, un trash et puis un avec du plaido quoi. Tu prends ce que tu veux avec ça, Mélissa. Allez, deuxième question. Fibre.
Elle est un peu compliquée.
Elle est un peu compliquée.
Est-ce que pendant
tu sous-estimes notre public, Fibre?
Est-ce que pendant l'affaire Charlie,
oui,
vous avez vu un truc sur les réseaux sociaux et vous avez dit ce mec-là, il a pas de race?
Arrête, parce que j'ai fait un truc.
On te l'a dit, hein.
Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le public qui veut répondre à cette question ou pas? Monsieur.
Sony.
Bon, c'est un très classique et je pense que vous l'avez tous vu, mais ça a été ma première réaction à dire vraiment sans race. C'est Le Pen qui a tweeté une photo de sa fille.
Oui, keep calm et vote Le Pen.
Voilà, keep calm and vote Le Pen. J'ai fait, ok, donc ce mec n'a vraiment, vraiment aucune. En fait, ça n'existe pas. Chez lui, il n'a pas de race.
Pourtant, voilà. Il est raciste.
D'autant plus dégueulasse, c'est le mec qui a fait un incroyable. Même et tout. C'était horrible.
Ok, très bien. Ça, c'était bien senti de sa part, c'était bien, bien dégueu. Est-ce que quelqu'un d'autre a été choqué ou pas par une réaction ou quelque chose qui a été posté? Une blague mal placée, une vidéo qui aurait pas dû être relayée, par exemple?
Des chiffres d'audience.
Non. Oui?
Moi, ce que j'ai trouvé assez irréaliste, c'est le communiqué de presse de l'AFP, de la famille de Charb,
ouais,
par rapport à Jeannette Bougrabe.
Ah oui, donc Jeannette Bougrabe qui était censée être sa copine.
J'ai trouvé ça tellement... déplacé, tellement pas à sa place.
D'accord. Donc, pour remettre dans le contexte, en fait, ils ont démenti le fait qu'ils avaient une liaison, si j'ai bien compris. Alors qu'elle, elle voulait dire qu'ils étaient ensemble.
Bah, c'est oui. Le frère qui disait qu'il fallait qu'elle arrête de parler en disant que c'était sa compagne, quoi.
D'accord. Bon, effectivement, pas très fin. Une dernière. Bon, je suis passé entre les mailles du filet. On va passer à la question suivante, du coup. Sylvain.
Alors.
Attention, ça va être métaphorung.
Prenez vos papiers, là. prenez vos stylos. En partant du postulat que la réalité virtuelle, donc pas la réalité augmentée, hein, la réalité virtuelle, et notamment l'Oculus Rift, c'est le futur du gaming, du porno, de Facebook et de la vie en général. Est-ce que vous pouvez imaginer quelle nouvelle pathologie physique ou psychologique l'être humain va développer?
Vous avez une heure.
Allez, salut.
Alors, est-ce
que là,
qu'il y a...
tous les gens vont définitivement partir.
Alors, monsieur... Ah non, donc, qu'est-ce qu'on va développer comme petit comportement et petite névrose avec cette réalité virtuelle?
Perso, pour avoir bossé sur l'Oculus Rift,
oui.
Déjà, il y a un truc à prendre en compte, c'est l'oreille interne de toute façon, c'est qu'au bout de 10 minutes, c'est injouable.
Faux.
Ah.
Bah, dans ce faux. Cas, après, bon, bah, après, il y a peut-être des trucs qui sont faux. Sortis entre temps, mais c'est vrai que pour avoir testé beaucoup de démos, la plupart des gens.
Ouais, non, mais les démos, elles sont dégueulasses, on dirait
des
trucs.
Bien sûr, mais la plupart des gens qui, pour l'instant, ont développé les trucs dessus, c'est injouable.
T'as essayé ouais. Elite ou pas sur l'Oculus Rift?
Pas encore. Mais c'est vrai que la principale problématique quand on développe sur Oculus, c'est surtout l'oreille interne. Parce qu'effectivement, si on ne peut pas jouer plus ouais. de 10 minutes, ça fait quand même un peu gadget.
Puis ça donne aussi un peu la gerbe quand même dans le genre symptôme
bah,
nouveau.
Oui, c'est
hein.
ça.
Certains commerces sont un peu sensibles. Il y avait une personne derrière vous qui voulait répondre du coup?
C'est un truc tout con, mais ça a juste des faiblesses musculaires.
D'accord. Donc
à force d'être sur le.
À force de rester immergé. Assis. Et donc même pas d'utiliser ses mains sur des claviers souris, etc., d'être comme ça. D'accord.
Mais non, mais c'est quoi cette pathologie de merde?
C'est-à-dire, non, c'était pas d'accord.
Bah, pas du tout, au contraire, tu vas muscler ton cou, t'auras toujours 2 kilos accrochés. Mais non, mais enfin, je
vois.
Donc
tu penses qu'on aura des corps décharnés, mais avec un coup de
taureau. Oculus Rift, tu joues de la même manière que tu joues sur PC, PC, sauf que
non, bah, mais
l'écran il est là, quoi.
Oui, mais là on parlait pas que de jeu, c'est pas parler de réalité virtuelle en général.
C'est vraiment virtuel avec.
On est plongé dedans.
Je sais pas, moi il me semble que le vrai rêve de la réalité virtuelle à terme, c'est d'évoluer dans l'espace aussi, c'est-à-dire de marcher pour de vrai sur un tapis roulant ou un truc comme ça pour te déplacer, donc je sais pas.
C'est pas un rêve qui me fait rêver. En tout cas. Est-ce qu'il y a une autre réaction ou pas là-dessus? Est-ce que vous, par rapport à tout ce qui est réalité virtuelle. Alors, allez-y.
Je l'ai entendu, hein, le syndrome Matrix, c'est la pilule bleue ou la pilule rouge. Ouais. Savoir si on est dans le monde réel ou on est dans le monde virtuel.
Ça fait penser à ce monsieur qui voulait faire croire à son enfant qu'il vivait dans des simulations informatiques. Ouais. Qui voulait, dès le début de la naissance, son enfant lui faire croire.
C'était absolument terrifiant comme truc. Quoi.
Donc, c'est déjà arrivé à des mecs à l'Oculus Rift là d'enlever le machin et de se dire.
Oui, il paraît qu'il y a un syndrome de l'Oculus Rift justement qui est de. Comme quand on vient d'Inde un peu.
J'ai enlevé mon casque et j'ai l'impression d'être encore dans une réalité virtuelle en fait.
Ça, c'est des gens qui sont un peu enclins à faire n'importe quoi. Ça.
C'est possible, c'est possible, c'est possible.
Mais tout le monde n'est pas solidement ancré dans le bon sens terrain.
Eh bien, c'est bien dommage.
Moi, quand je suis trop longtemps sur mon Segway.
Ton Segway, ouais.
C'est vraiment ça se prend,
Segway. Hein, c'est pas
ouais, sur mon gyropode, et là, quand je suis à pied, j'ai l'impression d'être encore dessus, tu vois.
D'accord. Donc toi, tu vous laisses
emporter. Je me penche vers l'avant.
Vous vous laissez emporter.
je me penche vers l'avant.
Une dernière action. Mademoiselle, sur cette histoire de réalité virtuelle, est-ce que vous pensez que ça va changer nos comportements ou pas?
Moi, je pense que ce qui peut se développer, c'est une phobie du monde réel.
D'accord. Carrément, ouais. C'est-à-dire que le monde virtuel qu'on aura choisi, qu'on aura un peu façonné à son image, sera trop beau pour revenir à la réalité ou ? C'est une sorte
ouais,
de... D'accord.
Clairement, ça peut créer une vraie dépendance. C'est vraiment une peur de plus reconnaître le monde, en fait, tel qu'il est, quoi. De plus sentir à l'aise dans le monde réel, en fait.
Ouais. Est-ce que c'est une certaine manière, comme certaines drogues, comme la cocaïne, qui font qu'une sorte de descente ou de dépression de la vie réelle et qu'on ne peut plus se sentir bien si on n'en prend pas ? C'est ça
ouais,
qu'on peut
craindre. Je pense que ça va être des exceptions, des comportements déviants, mais oui. comme les drogues, comme la cocaïne.
D'accord.
Mais je pense que oui, c'est quelque chose qui va apparaître, ouais.
D'accord. Donc une dépression, la dépression de la vraie vie. Vous y croyez ça ou pas?
Ouais, moi j'ai hâte que dans 15 ans, dans un journal télévisé après une tuerie dans un lycée, on nous dise.
On a retrouvé
un Oculus Rift chez lui. Pas de conclusion hâtive.
Mais il faut surveiller la réalité virtuelle du coup. Il faudra surveiller la tête. Ok, très bien. Et ben c'était pour la question de Sylvain et on finira donc sur la question de Daz. T'as changé de question ou pas du coup?
Je suis bien embêté parce que.
Elle est dure, sa question.
Non, la question. Ah oui, la question backup que j'avais.
Oui.
C'était. Mais je sais pas si. Bon, c'est pas grave, de toute façon, on est des nerds. Dans Elite Dangerous, vous êtes plutôt trafiquant d'esclaves ou chasseur de primes?
Est-ce qu'il y a des gens qui jouent à Elite Dangerous dans le public?
Non. Eux, ils s'enfuient.
C'est le moment de poser ta deuxième question backup.
Non,
t'as
j'ai pas
de slammer.
Non,
hein, t'as un slammer, t'as la chat, tu vas trouver comme ça.
Ouais, bon, allez, une question backup.
Oui.
Ça me désole que personne joue à ce jeu, à part les personnes ici autour de cette table.
Quel est le dernier jeu auquel les gens jouent?
Ah ouais, tiens. Oh, ouais, mais tout le monde va répondre Candy Crush, ça me.
C'est une bonne information.
Vous assistez à un moment rare où Daz n'a rien à dire, regardez bien. Profitez.
Observez.
Voilà, installez-vous bien tranquillement dans
le
siège. Ouais,
quel est le dernier truc que vous ayez piraté?
Quelle est la dernière chose que vous ayez piraté en
film,
payant la
télé? Film, série, jeu, n'importe quoi, album.
Ouais, que des couilles molles. Ah, voilà, une demoiselle avec des couilles molles. Pas molles, pardon. Je me perds.
Bonjour. Moi, la dernière chose que j'ai piratée, c'est Jackie au Royaume des Filles de Riyad Satouf. C'était super.
D'accord. Ben, Riyad, si tu nous écoutes, t'as pas gagné d'argent, mais t'as gagné
les adresses. Hein.
Voilà, mais t'as gagné une fan. Eh ben non, mais c'est important de le dire. Comme quoi, on pirate aussi des trucs bien. Quelqu'un d'autre? Oui, monsieur? Qu'est-ce que vous avez piraté pendant que vous mangez votre petit clacos, monsieur?
Ah, avec le clacos, c'est le verre de rouge. L'intégrale de Joe Jackson avec un live absolument génial de 81-82.
Mais
c'est dégueulasse,
tête.
Et on a des pirateurs des pirates de qualité quand même. Hein. C'est, ça chope pas de la réalité. Ah, ça lève les mains. Alors, monsieur puis monsieur.
Alors, hier soir, sur Popcorn Time, c'était le dernier Tortue Ninja et je me suis endormi au bout de 20 minutes.
Ah, bah merci de télécharger de la merde parce que je pensais qu'il y avait trop de choses de qualité qu'on téléchargeait dans cette salle. Effectivement, Tortue Ninja, très mauvais film.
Bonjour.
Bonjour.
Tout simplement, le dernier Jack White en vinyle parce qu'il y a un petit truc quand il tourne.
Attendez, vous avez téléchargé un
vinyle.
C'est l'imprimante 3D là.
C'est tout simplement parce qu'il n'y avait pas la version MP3. Du coup, j'ai téléchargé illégalement.
D'accord.
Et que c'est juste un message aux ceux qui pressent les disques, là, je sais pas comment appeler ça.
Ah, d'accord.
Foutez des versions MP3 parce qu'on l'a acheté le truc.
Ah, donc vous l'avez acheté quand même?
Oui, j'ai acheté le vinyle, mais j'avais pas la version MP3.
Ah, d'accord.
Du coup, j'avais la musique, mais je pouvais pas l'écouter.
Ouais. C'est ce qu'on appelle un hipster, voilà. Il achète un vinyle parce que c'est fait une belle.
Non, je rigole.
Un dernier aveu. Oui, là-bas, monsieur.
Il y a des pirates
partout, Fibre, enfin.
Bonjour.
Bonsoir.
Bonsoir. Moi, j'ai piraté Lightroom pour faire de la retouche photo. Et
comme
en fait,
la moitié de cette salle.
Personne n'a jamais piraté Adobe ici. Franchement, ça n'existe pas.
D'ailleurs, on se demande comment ils font de l'argent.
Si vous savez.
Et en fait, je me suis rendu compte que je faisais des meilleurs effets sur Instagram.
Ouais, là, c'est du troll, là. Ah là là, d'accord. Carrément, bah merci. Adobe, ils sont piratés, en plus ils se font insulter, c'est du beau. Là-bas, monsieur, qu'est-ce que vous avez piraté récemment de frais? Bonsoir.
Bonsoir, enfin bonsoir.
Oh là là, quelqu'un avec,
à partir du moment où il y a Popcorn Time et tous les sites de streaming en ligne, est-ce qu'on pirate vraiment en fait? Est-ce que les gens ont l'impression de pirater? Je suis pas sûr que ma petite sœur de 14 ans a l'impression de pirater, c'est là.
Oui, mais elle pirate.
Mais il faut lui apprendre la loi française, monsieur. Parce que streamer, c'est pirater, tout à fait.
Mais tu vois ce que je veux dire, entre l'image
oui,
du pirate
bien sûr, bah oui,
et c'est juste là en fait, t'as deux clics à faire, t'as un...
Est-ce, que fumer, est-ce que fumer un joint sans mettre les mains pour tenir le bédo, est-ce que c'est contre la loi?
Donc votre sœur ira en taule, hein, voilà, si vous posez la question, elle ira en taule. Personne n'a piraté du cul, c'est marrant quand même. Hein.
Bah non, tu pirates pas du cul.
Bah si. C'est gratuit. C'est parce que c'est gratuit que c'est légal.
Dernier jeu que j'ai piraté, c'est un jeu qui s'appelle God We Build Watching. C'est un jeu qui est sorti d'une game jam, comme il y a en ce moment là, juste à côté.
Je crois que c'est un jeu avec des décisions très
pirates. Voilà, c'est un jeu où en fait c'est des décisions.
Shoot-le.
En fait, tu prends des décisions assez rapidement, mais sur une, enfin, je crois, sur 45 minutes, et c'est par exemple une scène de torture. Ouais. Et donc, faut choisir, donc voilà, de torturer le mec ou pas, mais tout en le gardant vivant, parce qu'il faut lui tirer des informations. Ou garder des otages vivants ou les buter s'ils essayent de s'enfuir. Et voilà. Mais le truc, c'est que j'avais pas de thune à ce moment-là, donc je l'ai piraté.
D'accord.
Mais voilà, après, le truc, c'est que j'achète mes jeux maintenant.
Ah, d'accord. Donc là, c'est en
la
mode
rédemption.
De petite dèche.
La maturité.
Encore un petit aveu. Ah, ça commence à, les langues commencent à se délier là, on est au confessionnal. Oui, mon enfant.
J'ai piraté un logiciel qui permet d'écouter le AirPlay sur mon Mac, un petit peu inversé. C'est pour diffuser les podcasts du téléphone sur le Mac.
Et pourquoi pas télécharger sur le Mac les podcasts?
Ah, trop compliqué.
Ah, c'est ça. En fait, c'était le plaisir de pirater.
C'est le Mac du bureau.
D'accord, ok. Ouais, là, tu dis, c'est pris la tête hein, pour pirater quand même. Ouais. Hein.
On est dernière. Sur SoundCloud. Hein.
Dernière, non, c'est fini. Ah, alors, une dernière pour monsieur là-bas, juste derrière vous. Bonsoir.
Bonsoir, je vais passer un peu pour un con parce que j'ai pas tous les chiffres en tête, mais il y a Us2Game qui a tweeté il y a pas longtemps leurs chiffres sur Monument Valley.
Oui.
Sur ce qui se faisait pirater. Et donc, il disait que sous Android, enfin, je vais pas faire le.
C'est des enculés, mais ça, on le sait déjà.
Il y avait genre 95% de piratage.
Et oui, Sylvain Palais.
Et sous iOS, 60%.
60% de piratage, ouais.
Parce que c'est des nouveaux, enfin,
quand même.
En fait, je sais pas trop ce que ça veut dire finalement, quoi. Voilà.
Alors, en fait, non, c'est vrai qu'il parlait de gens qui n'avaient pas payé le jeu. Donc, effectivement, il y avait aussi des cadeaux. Mais c'est vrai que sur Android, il n'y a pas trop la culture de.
T'as des stats sur OutDare, Fibre, sur le piratage?
Oui, tout à fait.
Alors, Fibre, donc, il a créé un jeu vidéo sur mobile. Et bientôt sur PC qui s'appelle Out There.
Alors, il faut voir que Out There, pour un Android. Alors, on enlève la Chine hein, parce que c'est particulier, mais pour un Android.
tu me donneras les chiffres tard parce qu'ils sont marrants, les chiffres de la Chine quand même, ils sont mignons.
Un Android acheté, 5 piratés. Donc, nous, c'est très faible par rapport à Monument Valley, mais.
Donc, toi, à peu près 20% des gens ont payé.
Oui, mais on a. Enfin, nous, alors. Et contrairement à Monument Valley, on va dire, et nous et certains autres développeurs, on a respecté, entre guillemets, le marché Android. C'est-à-dire qu'on a fait une bêta sur Android, on a fait du feedback sur Android. Android. Pour la plupart des gens jusqu'à 2015, c'était un marché très méprisé parce qu'il n'est pas contrôlé comme sur Apple, donc on faisait de l'argent moins facilement. Voilà. Mais quand on prend soin des possesseurs d'un device, et ben, ça se sent. Voilà.
D'accord, donc tu passes de 5 à 20%.
Ah oui, complètement.
Et sur la Chine alors, juste pour qu'on rigole?
Sur la Chine, c'est énorme. Mais c'est un piratage d'État. C'est-à-dire que l'équivalent de Orange chinois va distribuer gratuitement votre jeu parce qu'il n'en a rien à foutre. Et c'est tout. Et il se fera de la pub dessus. Voilà. Donc c'est des chiffres très très importants. On est de là au-delà de 500 000 unités alors que le jeu a été vendu à 300 000 unités. Sur le monde entier, en Chine, c'est
500 000 personnes y jouent sans avoir payé.
En Chine?
Oui.
Ouais. Voilà.
Et t'as trouvé le Chinois qui a payé? Il y a un Chinois qui a payé ou pas?
Ouais, il y a des Chinois à Hong Kong. Hein,
ah ouais.
C'est
des histoires des Chinois. Quoi.
Ils sont comme nous, ceux-là.
Non, mais en Inde aussi, voilà, il y a des pays qui sont pas trop, qui sont pas trop réceptifs à l'achat.
Bon, je terminerai sur votre confession à vous, sur la question, la dernière chose que vous avez piratée, on terminera là-dessus.
La dernière chose que j'ai piratée. Mais je sais pas du tout.
Tu te souviens plus. Hein.
Non. Non, mais sans déconner. Non, mais sans déconner pour de vrai, parce que je me bute à Elite à peu près tous les soirs.
Oui.
Que j'ai acheté. Qu'est-ce que j'ai piraté? Putain, je sais plus. Sincèrement, je sais plus.
D'accord.
Je sais plus. J'ai dû essayer de chercher une bande originale d'un jeu à la con qui est sorti en 91. Enfin, voilà.
Sylvain, dernière chose que t'as piraté?
J'ai regardé Gone Girl hier sur Popcorn Time.
Ah, bah c'est celui-là. Ah, Popcorn
Time, dis donc, c'est sacrément.
Ça marche bien, c'est cool.
Fibre.
Ça fait très très longtemps que j'ai rien piraté. Non, pas parce que j'achète des choses, au contraire, c'est. Je ne consomme pas de films, pas de séries. J'utilise.
Je me mets en veille.
J'utilise Google Docs pour Word. J'ai même pas besoin de pirater Word. Peut-être que je dois avoir une version craquée de Photoshop chez moi, mais je m'en sers pas, quoi. Voilà.
D'accord, toi t'en es revenu, quoi.
Non, et puis c'est toi qui payes Slack, tu payes SoundCloud. Moi, j'en ai plein à payer, voilà.
Mélissa.
Une série franco-britannique qui s'appelle Tunnel.
Tunnel.
Qui n'est donc pas sur Netflix ni sur Hulu.
Donc toi, t'as la caution du j'ai trouvé nulle part, j'étais obligé de pirater.
Voilà. C'est pour la beauté de la série.
C'est plus ça ?
Si.
Donc voilà, tu pirates du français.
Ouais, franco-britannique. Okay. Un peu les Anglais.
Bon, bah c'est du joli. Bah, ça me fait plaisir de savoir que tout le monde est pirate. Mais pirate un peu quali.
Et toi, mon grand ?
Dernière chose que j'ai dû pirater ?
Bonheur.
John Wick, je crois. Hier soir, un film avec Keanu Reeves qui mérite d'être piraté.
Vous
savez, il y a les direct to vidéo, il y a ceux qu'on regarde dans l'avion, et puis il y a ceux qu'on vraiment on télécharge leur DivX en stream. Voilà. Non, mais c'était pas mal. Bon, en tout cas, ça me fait plaisir de savoir que tout le monde a piraté. Des choses plus ou moins de qualité, qu'on se fait des bonnes choses à manger pendant qu'on pirate et qu'on attend que ça charge. Hein, un bon claquos, un bon vin, il faut venir au fondamentaux. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir écoutés, d'avoir assisté à l'émission. Et on espère que tout est bien mis en boîte par notre ami Ghislain qui a tout bien maîtrisé. On se retrouve le mois prochain en tank, en tout cas. En tout cas, merci beaucoup à tous de votre intervention.
Merci.
Allez, c'est l'heure de faire la fête. À très vite pour nos auditeurs.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.